Tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, 18h30, 2h d'émission. Puisque derrière, c'est du foot, en clair, en direct, c'est de la Ligue 2, avec un entraîneur qui dit du mal des autres. On ne peut pas trop en parler, puisqu'il y a Benoît Trémoulinas qui est dans le coin. C'est l'équipe de Greg, saison 3, épisode 166, le vrai, et ça commence maintenant. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. On est mardi soir, on est en pleine forme. On est très heureux de vous accueillir pour s'amuser, s'informer, se divertir autour de la planète football. Elle est de retour. Alléluia mes frères, mes sœurs. Déguisé en Peter Pan, sa plus belle tenue. Bonsoir Alicia Dobby.
Oui, j'ai pas voulu vous faire, donc j'ai remis du verre.
Ça va ?
Bonsoir à tous.
Plaisir, on était inquiets hier, on a eu peur. Bonsoir Anthony Clément.
Bonsoir Greg.
Ça va ?
Ça va très bien.
Super, Benoît Trémoulinas, c'est à vos côtés. Bonsoir Ben.
Bonsoir Greg.
Bien en forme ?
Très bien.
De l'autre côté, Karine Galli, bonsoir Karine.
Bonsoir.
Ça va ? Vicage Dorasso, bonsoir Vicage. Vicage, un mardi, puisque c'est ça.
Ouais, c'est rare. C'est rare.
Elle est pas vous cette chemise, Vicage ?
Elle est à carreaux.
Elle est à carreaux, bien sûr.
Il est bonsoir. Résigné.
Non, non, je sais que ça va arriver.
Il est préparé, il est rodé, il est éduqué. Bonsoir Raphaël Sebaoun.
Bonsoir Grégory Hacher.
Bonsoir. Voici le sommaire de cette très riche émission. Beaucoup de choses et beaucoup de sujets différents. Gonçalo Ramos. Qui plante. Est-ce qu'il est le successeur de Mbappé ? Je parle sur le terrain, je ne parle pas en termes d'aura médiatique, évidemment. Est-ce qu'il a mérité le droit d'être dans la conversation et de succéder en tant que neuf à Mbappé ? Euro J, moins 55, on s'en rapproche. Thuram champion, Pavard champion, on va parler d'eux, on va vous montrer le match de l'Inter hier contre Milan, les buts, pas mal de choses à dire, du foot, on aime. Brest, privé de stade, c'était la une de l'équipe, très bon jeu de mots, l'UEFA n'aime pas le blé, Francis Leblé évidemment, alors que l'UEFA adore les pépettes. Seulement voilà, Brest c'est 5000 places, ou ce ne sera pas à Brest, est-ce que c'est un scandale ? Là on posera la question, même si on connaît les limites, malgré tout, du stade. Et puis le baromètre du maintien, vous adorez la course à l'Europe, vous adorez également le baromètre du maintien, parce qu'on ne sait pas qui va descendre, qui jouera les barrages, qui va s'en sortir, avec Nico Tadze qui est en pleine bourre en ce moment, et qui à lui tout seul est en train de sauver le FC Metz. Voilà pour ce programme, on aura bien évidemment deux jeux ce soir au programme, le hat-trick, le zapping, le replay en deux parties d'Antoine Pinault, Jonathan Donnel pour le marquage à la culotte, parce qu'on est mardi, et puis bingo. Le bingo, le phrase toute faite, poncif, généralité, vous irez, allez, pour une majorité d'entre vous, sur le banc ce soir, 18h33, pile, voici l'indispensable du soir. Les conférences de presse, évidemment, en J-1 pour le Paris Saint-Germain et pour l'Olympique de Marseille. On va s'intéresser d'abord à Luis Enrique, le PSG qui joue contre Lorient. Il était en conférence de presse, il est motivé à l'idée de gagner le triplé dont on parlait d'ailleurs hier soir en fin d'émission.
Sin ninguna duda. Esa es una de las motivaciones.
Bien sûr, on en parle dans le vestiaire. Cela nous motive de faire quelque chose que personne n'a encore fait en France. Marquer l'histoire du club, de la ville, le faire pour nos supporters. Mais attention, pour l'instant, il n'y a qu'un seul titre d'acquis, c'est le trophée des champions. Il faut gagner le championnat, lutter en Ligue 1 pour respecter les autres clubs. Après, on aura la finale de coupe contre Lyon, un match singulier et difficile. La demi-finale de Ligue des champions contre Dortmund, un rival que nous connaissons très bien. Nous sommes là où nous voulions être. Mais c'est un chemin long, sinueux. Il faut qu'on soit très concentré et très inspiré pour cette fin de saison.
Voilà, il est l'homme qui est sur toutes les lèvres des suiveurs du football français, Luis Enrique, qui est en passe de réussir son pari. Alors, on dit triplé, pas quadruplé, je vous explique pourquoi. Parce que le trophée des champions, c'était la saison dernière. Donc même si ça a été gagné en janvier, ce n'est pas comptabilisé comme un trophée de la saison. Voilà, donc bon, bah c'est à la lutte, ça chipote, on pourra dire triplé, quadruplé, qu'importe, c'est pas bien grave. Benoît Trémoulinas, vous nous aviez averti en début de saison sur Luis Enrique, quand on se demandait qu'est-ce qu'un coach comme ça pouvait apporter au PSG. Un coach qui avait gagné la Ligue des Champions, qui connaissait le chemin, qui pouvait sortir des joueurs, pas les sortir. Vous êtes surpris ou pas par sa réussite quand même ?
Pas plus que ça. Pas plus que ça parce que à Barcelone, il a réussi. Avec l'équipe espagnole aussi, il a fait de très belles choses. Donc la chance qu'il a eue par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il a eu beaucoup de liberté. On l'a laissé faire, notamment lorsqu'il y a eu des choix forts à faire. Il a osé changer des 11 types quasiment chaque week-end, chose que ne faisaient pas aussi ses prédécesseurs. Il a fait confiance aussi à tous ses joueurs durant durant toute la saison. Il a tenté des choses aussi avec certains joueurs où il les mettait à un poste puis à un autre. Il a tenté des choses et en fait, tout ce qu'il a tenté...
Il n'a pas toujours réussi sur l'instant, mais il a travaillé pour la
suite.
Oui,
mais finalement, quand vous faites les comptes, il reste encore pas mal de matchs. Mais voilà, il est en demi de Champions, ils vont être champions. La Coupe de France, il est en finale.
Ils ne sont pas champions, quoi.
Donc voilà, c'est pas surprenant. Je pense qu'il a c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup d'ego, mais ça lui permet aussi d'affronter entre guillemets les individualités de son équipe et d'asseoir un petit peu son autorité.
Vicage Dorasso, vous voyez, j'espère qu'on sera titré demain, c'est ce que dit Luis Enrique. On avait lu dans le journal également, il avait dit lui, hein, c'est pour ça qu'on l'a lu dans le journal, qu'importe qu'on soit titré avant un match contre Dortmund, après, ça a quand même une incidence d'être complètement libéré, où ils savent qu'ils sont champions. Est-ce que vous comprenez l'envie d'être titré le plus vite possible, ou est-ce que pour être débarrassé de ça avant la Ligue des Champions, quel est votre sentiment sur ça? Vous avez connu ce genre de sentiment?
Bah là, il va être titré à 4 journées de la fin, mercredi. Mais il y a surtout la Ligue des Champions, c'est tenir l'effectif sous tension. Il y a quand même la finale de la Coupe de France, puis la demi, peut-être une finale. Il n'y a pas de raison à ce que le groupe se démobilise, donc qu'ils soient titrés maintenant.
Mais s'ils sont titrés demain, ils vont pas aller faire la fête jusqu'à 6h du matin, 5 soirs de suite, quoi, je veux dire, vu les échéances. A priori,
plus personne ne fait la fête pour le titre de Ligue 1 au PSG.
Normalement, non.
Ouais. Normalement.
Non, mais ils n'ont pas besoin d'un titre pour faire la fête, oui, à mon avis, à Paris.
Donc, oui. Ça, c'était autre chose. Je voulais pas le dire, moi.
Sa conf, elle était plutôt assez bonne. Il est bavard, il est en train de gagner, donc il est assez facile. Moi, je trouve que ça passe pas loin, hein, de l'échec. Il faut beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance sur plein de... Il a été têtu.
Est-ce que ça se provoque, la chance? C'est ça aussi le débat qu'on aura en fin de saison.
Finalement, toutes ces expériences, expérimentations n'ont pas toujours marché. Et finalement, il est revenu à un système très classique avec une équipe qui a été plutôt moins déstructurée que d'habitude pour gagner le match. Donc, je pense que c'est beaucoup, beaucoup de chance pour gagner, quoi.
Karine, il y a un mot sur le match de demain quand même, qui a de l'importance aussi pour Lorient, hein, parce qu'on va faire la course au maintien tout à l'heure, donc on en parlera. On ne se plonge pas dans un 11 qui pourrait nous pondre, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va aligner comme équipe demain. Là, techniquement, ça va faire jouer Mbappé, pas faire jouer. Hier, on se disait que c'était devenu un non-événement qu'il ne soit plus titulaire contre Lyon. Il va jouer demain pour le match.
De toute façon, on sait très bien que maintenant Mbappé, il est juste programmé pour les deux matchs de la demi-finale et a priori la finale de Coupe de France. Il l'a compris, Mbappé, et voilà. Après, ce qui est important, en fait, c'est Lorient, parce que le PSG sera champion. Lorient, ils espèrent avoir l'équipe C, D du PSG. Ouais. Bah oui, parce qu'on l'a vu, le PSG a laissé quelques points. Parfois,
contre Lyon, c'était pas l'équipe A et ça a fait mal à
Lyon. Oui, mais contre Clermont, par exemple, c'était une équipe C, voire D.
C'est vrai.
Et Clermont avait pris... finalement un point. Donc moi je pense que c'est le côté de Lorient qui compte, parce que les Parisiens de toute façon ils seront champions.
Oui, vous tirez aucune conclusion du match du PSG demain à Lorient avant les demi-finales. Là on sépare les compétitions, quoi.
Ah bah oui, bah surtout c'est Luis Enrique qui sépare complètement les compétitions, et c'est pas en étant bon au moustoir que tu gagnes ta place pour une demi-finale de Ligue des Champions.
On est d'accord. Luis Enrique a tenté des choses. Alors on a un entraîneur à Paris dit Faro. Anthony, je vous garde pour l'Olympique de Marseille puisque vous les suivez au quotidien. On va écouter Jean-Louis Gasset qui fait un calcul très simple. Si on bat Nice, parce qu'il joue contre Nice, on est 7e et donc européen possiblement.
Je vous l'ai dit, semaine décisive, on joue Nice. Si on bat Nice, on est 7e, et l'équipe qui sera au-dessus de nous, ce sera Lens, à 3 points, qu'on joue dimanche. Donc on a encore notre avenir. Donc elle est décisive.
Bon, Anthony, déjà première chose, bravo à Jean-Louis Gasset qui a très bien lu le classement, très bien analysé l'histoire. Mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire que l'OM doit jouer la C3. Hier, ça faisait presque pas débat. Tout le monde était en train de dire il fallait qu'il joue tout sur la C3 pour rêver d'une qualification Ligue des Champions, d'un titre, faire rêver le peuple marseillais. C'était vraiment ce qui revenait hier. Maintenant, c'est vrai qu'arithmétiquement, il y a encore des choses à jouer face à un adversaire direct.
Bah oui, je suis surpris qu'il y avait unanimité hier parce que
quasi-unanimité.
Parce que c'est quand même pas gagné de gagner la Ligue Europa, quoi.
Personne disait qu'ils étaient favoris contre l'Atalanta, mais en disant tout miser dessus.
Déjà un très bel espoir d'aller en finale, mais la finale ne vous garantit rien, et même si ça serait au moment où on se parle une superbe histoire, ça vous donnerait rien pour la saison prochaine. Il y a quand même la 7e place qui est pas très loin.
Il faut que Paris gagne la Ligue, la Coupe de France.
Vous apporter une place européenne, ça c'est quand même important pour le club, même si ça serait que la Ligue Europa Conférence. on imagine toujours Marseille au moins dans une compétition européenne, surtout pour la jouer à fond.
Ils peuvent aussi se retrouver le bec dans l'eau et sans rien du tout.
Exactement, mais c'est un peu tout le problème de Jean-Luc Gasset, qui doit composer avec un effectif qui est totalement épuisé, décimé par les blessures, qui peut compter en Ligue 1 sur des joueurs qui ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe, mais ceux-là, ils n'ont pas de rythme. Donc il est sans cesse en train de jongler entre des états de forme disparates, entre des niveaux tout simplement de joueurs qui sont parfois pas toujours dignes des enjeux qui se dressent devant l'OM. Donc c'est une situation très compliquée. Le retour de Mbagna a eu l'immense mérite de couper la série négative parce qu'ils étaient quand même sur 5 défaites d'affilée.
Oui, mais peut être un tournant dans la fin de saison, ce but-là?
En tout cas, ça permet d'envisager ce match contre Nice avec plus d'élan et sans se dire que tout est perdu et en se disant justement ce que peut se dire Gasset. Si on gagne contre Nice, on reprend la 7e place. Sans ce but-là, on se retrouve avec un élan qui était quand même très compliqué. Tout le monde se serait juste rappelé de Paulo Lopez qui se déchire et qui fait oublier sa bonne performance contre Benfica. Donc ce but-là, aujourd'hui, il a un vrai impact. Après, il va falloir le faire fructifier contre Nice. Et l'OM qu'on voit en Ligue 1 ces dernières semaines, qui ressemble plutôt à l'OM dernière période de Gattuso, laisse pas entendre qu'il s'est sublimé en dehors de la Ligue Europa.
L'OM ou Nice? Qui est favori
demain? Nice défend quand même toujours.
Qui sait répondre à cette question?
Et Marseille a quand même beaucoup de mal à jouer. Donc c'est un match moi, qui me semble très compliqué pour l'OM, parce qu'au moins Nice, ils savent bloquer des équipes. Il en faut peu en ce moment pour bloquer.
Oui, mais enfin, ils sont illisibles. On disait hier en plateau, ils sont capables de perdre contre un relégable et de gagner la semaine suivante. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué. Benoît, qui est favori?
Ils sont pas mal lisibles. Ils ont du mal contre tout le monde.
Marseille ou Nice?
Je pense que Nice est légèrement favori, mais effectivement, ils sont assez lisibles depuis quelques temps. Mais je rejoins Anthony. Nice défend plutôt bien quand même.
Bon, Karine, je suis un peu surpris des réponses de Nice, même si je connais les limites marseillaises du moment, mais dans l'euphorie, le fait qu'ils se retournent, Marseille à domicile, pas favori contre Nice, ça paraît.
Toulouse, non, c'est non. Euphorie quand même.
Non, mais alors c'est vrai, le mot peut être un petit peu oui, puissant. Mais en tout cas, voilà, il y a l'euphorie de la Coupe d'Europe et ce but magnifique de la 95e.
Il y a autant de fatigue
c'est pas rien
que de
quand même.
En fait, en ce moment,
oui.
C'est ça le problème.
Oui, mais sauf que faire Marseille contre Toulouse, c'était pas un bon résultat. Alors il y a ce point arraché à l'ultime seconde, mais c'est pas suffisant par rapport aux ambitions marseillaises. Moi, j'arrive pas à dégager de favoris, parce qu'effectivement, Nice, ils étaient au fond du trou et ils ont gagné leur dernier match en Ligue 1. Marseille, je les voyais pas capables de renverser Benfica, ils l'ont fait, donc il n'y a pas de favoris qui se dégagent. Voilà. Après, effectivement, vu ce que nous décrit Anthony, j'ai peur qu'on ait un 0-0. Quoi.
C'est-à-dire que là, Anthony, vous nous avez pas donné envie de regarder le match. Non, je peux pas vous mentir. Hein.
Non, mais il y a des bonnes nouvelles, il y a le retour de Klaus. Oui. On peut quand même être aussi
ça, c'est bien. Quoi.
Parce que de toute façon, Marseille a besoin de joueurs. C'est aussi ça le problème.
Même numériquement et qualitativement.
Exactement. Et Klaus peut faire les deux.
Mais comment on peut être, quand on est joueur Vicage Dorasso, dans cette fin de championnat, quand on a le cul entre deux chaises, j'essaie de le dire un peu plus vulgairement qu'Anthony, qu'on se dit, il ne reste plus beaucoup de matchs, mais est-ce qu'on peut s'assurer un avenir en championnat? Est-ce qu'on doit tout miser sur les matchs contre l'Atalanta? Parce que certes, c'est possiblement favori l'Atalanta, mais ce n'est pas non plus les Leverkusen ou Liverpool.
Moi, je pense qu'on choisit jamais sa compétition. On les joue les toutes au même moment. Après, c'est vrai que c'est plus excitant la Coupe d'Europe. Et évidemment, à mon avis, les joueurs qui seront sur ce match-là sont peut-être pas ceux qui joueront, qui seront titulaires. Voilà, il doit aussi faire tourner. C'est important d'être bon sur tous les deux. Puis en plus, Marseille joue à domicile. Voilà, il y a peut-être ça qui peut jouer. On joue à domicile, porté par le public. Mais c'est plus suffisant, je pense qu'aujourd'hui, les équipes qui arrivent à Marseille sont mieux préparées à jouer avec cette
ambiance. Ils sont pas mal cette année à domicile. Autant l'an dernier, c'était la cata, autant cette année, c'est bien. Contre Benfica, c'est un vrai supplément d'âme. Le support du
Ah oui, bah le stade Vélodrome dans ce genre de soirée, ça reste quand même un atout. Ça l'a pas toujours été, parce que c'est un public aussi qui peut être exigeant.
Est-ce qu'ils vont pas être concentrés comme les Vicage sur la demi-finale? Est-ce qu'ils vont être à fond sur un match?
Non, je pense pas vraiment. Le problème à Toulouse, c'était pas un problème de on pense à autre chose. C'était un problème de forme physique du moment et de limites qu'on a malheureusement déjà vues en dehors de ce contexte-là.
Bon, on reparlera de tout cela demain, évidemment. On suivra d'ailleurs dans l'émission le match du Paris Saint-Germain. On aura Tanguy Le Sévillier qui sera en cabine, voilà, pour vous faire vivre la rencontre. Vous serez avec nous en mode grande soirée dans l'émission, comme ça vous vivrez ce Lorient PSG, et puis derrière, dans la foulée, Marseille-Nice. Lui, il choisit pas ses matchs. Bon, il choisit ses jours, parfois. C'est Raphaël Sebaoun. Voici le hat-trick du soir.
Ce hat-trick, direction Benfica face à Farenz, le but d'Arthur Cabral. Regardez le geste magnifique. Oh oui.
C'est la talonnade.
Madjer.
Oui. Alors Madjer, talonnade, on vote quoi?
C'est une Madjer, là, un peu.
Madjer, c'est souvent galvaudé comme terme.
Oui. En tout cas, c'est un beau geste technique. Numéro 2 de ce hat-trick, ils sont même deux, c'était dans le même match. On vous montre deux buts tout d'abord, Middlesbrough-Leeds, donc Somerville pour Leeds. Regardez. Hop là, merci.
Ouais.
C'est facile.
passe bien. Hein. Oui. Ludo, aurait dit à la Ludo.
À la Ludo, Bragnac. Eh ben, il a été très fort. Et puis, de l'autre côté, on voulait montrer le but de Emmanuel Latellat. 87e minute de jeu. C'est pour Middlesbrough, bien sûr. Hop là.
Ça, la Vikash.
Ça, c'est très dur.
Ouais.
Et numéro 1 de ce hat-trick, direction la Turquie. Sivasspor face à Fenerbahçe. Le but de Fred. Regardez. Hop, merci. Et merci.
Oh.
La feinte, la frappe de loin, tout y est. Frappe du gauche, Benoît Tremolinas.
Ouais, il y a le geste technique et une belle frappe derrière.
Ah, hop là.
C'est costaud.
Il la met au
pied droit, frappe pied gauche.
Mais c'est fou.
Pas mal, hein.
Parce qu'en plus, on imagine qu'il va la mettre de l'autre lunette. Mais non, il la met là. Bien joué, Raphaël, un beau hat-trick. Ouais. C'est pas vous qui mettez le but, mais enfin, bien joué quand même de l'avoir sélectionné. C'est plutôt sympa de votre part. Et oui, la France joue dans 55 jours contre l'Autriche. On va se plonger maintenant, comme ça, dans l'Euro. On va vous préparer des émissions spéciales. Ça va être une dinguerie. On adore vivre ça avec vous, ces compétitions internationales, que ce soit Coupe du Monde ou Euro. Alors, on y va. France-Autriche, J-55, jingle. Et on va s'intéresser à des Français, puisque plutôt que d'aller dans un baromètre plus traditionnel, on s'est dit qu'on allait vous montrer du foot, qu'on allait vous montrer des images et deux bleus qui ont triomphé.
Oui, un deuxième titre chacun avec l'Inter. Il y a eu la Super Coupe d'Italie. Eh bien, il y a désormais le championnat de Scudetto. Contre qui? Eh bien, contre l'AC Milan, le rival, le 20e titre de l'histoire de cette équipe et donc deux Français titrés. Benjamin Pavard s'est illustré. C'est lui qui est à la remise. C'est la passe décisive de l'ouverture du score sur Acerbi. Et puis Marcus Thuram, buteur, le but du 2-0 du Français qui trompe un autre Français, Mike Maignan. Dans ce match, un Français qui s'est pas très bien illustré du côté des Milanais, c'est Théo Hernandez qui a été expulsé. Petite bagarounette avec Denzel Dumfries.
Bagarounette.
Oui, enfin bagarre quoi. Bon, ouais. Il a été expulsé. Il ne s'est pas illustré de la meilleure des façons.
Et ça se fête, un 20e Scudetto, surtout après un derby. Les images de joie, de célébration des supporters de l'Inter hier dans les rues milanaises jusqu'à tard dans la nuit. Les Interistes qui ont pu fêter un des plus précoces Scudetto de l'histoire de la Serie A. Ils étaient très nombreux à San Siro hier, des feux d'artifice, des chants dans le métro, le tout dans une bonne ambiance. Et une des images marquantes de la soirée, qui a été pas mal aussi reprise sur les réseaux sociaux, les supporters de l'Inter qui déposent un cercueil aux couleurs de l'AC Milan devant le dôme. Un peu de chambrage, mais tout ça dans une bonne ambiance. Il y a ce pacte de non-agression entre ultra du Milan et de l'Inter depuis le début des années 80, donc tout s'est plutôt bien passé. Bref, un sacre qui restera historique pour les hommes de Simone Inzaghi et pour nos bleus qui ont brillé, dont Marcus Thuram, qu'on vient d'évoquer, surnommé Ticus par ses coéquipiers et par les interistes, considéré déjà dans la lignée des meilleurs attaquants étrangers de l'histoire de l'Inter, selon la presse italienne. Marcus Thuram, qui d'ailleurs en a profité pour formuler une petite requête à son président. Il était accompagné de son coéquipier Çalhanoğlu. C'était lors d'un live Instagram après le match.
Hey président, tu nous as eu pour 0 euro. Tu rames Çalhanoğlu pour 0 euro. On peut avoir un cadeau quand même. Je savais que c'était une erreur ce live.
Voilà, bon esprit, bonne humeur, on adore ce live-là, mais c'est vrai qu'ils sont arrivés avec quand même une prime à la signature. Hein. Voilà, on va pas
continuer à dire, c'est pas tout à fait zéro.
Voilà, c'est pas tout à fait zéro, ils jouent pas gratuitement a priori aussi, mais enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de prix de transfert. Un mot quand même sur Vikash, vous avez joué à Milan, je suis désolé, j'ai à voir en premier, c'est un peu cruel. Bon déjà, dans une ville comme ça, comme à Londres, il y a toujours un club ennemi qui fête son titre régulièrement. Nous, ici en France, on connaît un petit peu moins, bien sûr. Ça vous fait mal au cœur de voir l'Inter sacré face au Milan ou pas ?
C'était historique que le rival vienne gagner le titre chez son rival, donc sur le terrain du Milan AC. Donc c'était assez violent pour eux, c'est une humiliation. Et l'Inter était venu humilier le Milan, le Milan ne voulait pas vivre ça. Malheureusement pour eux, ça a été le cas. Ils sont plus forts, ils sont beaucoup plus forts. Malgré tout, il y a eu un vrai match quoi, jusqu'au bout. Avec un niveau physique, technique assez incroyable. Et c'est vrai que le Milan a tout fait pour revenir au score. Après, les deux, là, Pavard et Thuram, c'était du haut niveau. Quoi. Physiquement, Pavard, c'est un défenseur de fou. Il a fait des interventions assez impressionnantes. Et Lautaro, qui est un peu moins bien, c'est Thuram qui prend le relais et qui physiquement gagne les duels, qui techniquement est bon aussi, capable de marquer. Donc, il y avait... Gros, gros match des deux.
On est quasiment dans la dernière ligne droite, Benoît Trémoulinas. Bon, 55, c'est un peu moins de deux mois, donc pas tout à fait la ligne droite. Mais enfin, on est dans le dernier virage, quoi. Avant l'Euro, c'est quand même chouette de les voir dans un tel état de forme. Je vous pose la question, on l'avait déjà posée sur Benjamin Pavard. Est-ce qu'il est capable de bousculer la hiérarchie pour se glisser dans le 11 des Bleus, tout simplement, quand on voit certaines mésaventures de ses coéquipiers?
Bien sûr qu'il est capable. Après, il y a tellement de concurrence que... On serait même pas où le mettre, c'est-à-dire que je pense qu'il pourrait jouer latéral droit, parce que je pense que malgré tout, il est meilleur que Koundé à ce poste-là, mais c'est pas son poste, et lui n'a pas très envie de jouer à ce poste-là.
Et Deschamps a dit, je le prends en défenseur central. Il avait dit Kamavinga, il jouera pas à gauche, les fers en plus.
Voilà, il dit ça peut-être à la presse pour lui faire plaisir, mais il sait très bien que si le premier match, il voit que ça va pas, il est capable de tout bouleverser comme il l'a fait après le match face à l'Australie. Moi, je pense qu'il peut être capable de jouer titulaire dans l'axe, hein, parce que dans l'axe, même si William Saliba fait une incroyable saison, il est pas non plus dans les petits papiers de Didier Deschamps. Upamecano, il fait pas une saison de dingue.
Mais il l'adore. Deschamps adore.
Oui. Après, moi, je vous parle de mes choix. Moi, Konaté, par contre, il est imbougeable. Très souvent blessé aussi. Donc là, sur cette fin de saison. Comme on dit sur l'Euro, sur les tournois, on a besoin du joueur le plus en forme possible. C'est pas le joueur qui a été le meilleur sur l'année. C'est-à-dire que là, on a besoin d'un joueur qui soit bon à l'instant T sur un mois. Un tournoi, c'est un mois. On l'a vu avec l'Italie, Donnarumma avait fait un tournoi exceptionnel sur un mois. Et sur une saison, des fois, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué. Donc, si Pavard, on voit qu'il est épanoui depuis son transfert pour l'Inter... Je pense qu'il peut postuler pour une place de titulaire.
Et c'est un garçon aussi, et c'est bon pour la confiance pour lui, et puis pour insuffler tout cela à son groupe. C'est un garçon qui gagne tout le temps, en fait. Regardez, on a dressé le palmarès des dernières saisons sur les titres. Champion d'Allemagne, champion d'Italie, il a tout gagné là sur les 5 dernières saisons.
Il est dans les clubs pour
le Bayern, et puis là, il arrive à l'Inter. Boum, le titre, champion, le Scudetto.
D'ailleurs, ça me fait penser que Kingsley Coman ne sera pas champion pour la première fois de sa carrière, parce que c'est Leverkusen. Karine et Anthony, il y en a qui voient Pavard bousculer la hiérarchie dans le 11 titulaire par rapport à sa grande saison à l'Inter. Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est dans l'axe? C'est quoi sa carte à jouer? Comment tu veux?
Moi, je trouve que c'est les deux. Moi, je suis d'accord avec Benoît. Déjà, il va arriver frais parce que là, il va quasiment plus jouer. La saison est finie pour l'Inter.
Mais il faut qu'il garde un peu le rythme.
Oui, non, mais je veux dire, il va pas se cramer. Le problème de Konaté, par exemple, ou en tout cas en Angleterre, c'est que eux, ils bataillent pour le titre de champion d'Angleterre, que ça soit Arsenal, que ça soit Liverpool. Donc, il y a encore une tension maximale. À l'Inter, bravo, ils ont fait une saison magnifique. Et de toute façon, personne ne se dégage. On l'a encore vu lors du dernier rassemblement. À droite, c'était compliqué pour Koundé. Et en défense centrale, de toute façon, Didier Deschamps, il est quand même très souvent amené à changer ses plans parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des méformes. Donc Pavard, il est exclu de rien, ni du poste derrière droit.
Sa meilleure carte sur le papier, c'est à droite, parce que c'est là où il y a le moins de concurrence. Et le grand mérite de sa saison milanaise, c'est de montrer... sur toute une saison qu'il est un vrai défenseur central.
Alors c'est pas le même là, type de défense qu'en bleu.
Oui, mais bon voilà, on le considère quand même autrement, je trouve maintenant au bout de cette saison.
Vous pensez que c'est une réussite absolue son transfert, même d'abord pour gagner et puis même dans l'esprit de Deschamps?
Oui, il a fui Harry Kane pour continuer à gagner, donc c'est senti. Et en plus voilà, au niveau, enfin c'est un choix risqué quand même qu'il fait en équipe de France. Il avait sa place, il dit qu'il veut pas y jouer. Enfin c'est quand même pas commun d'avoir son créneau et de dire non, moi je veux aller là où là en plus, il y a le plus de concurrence. Donc il part de loin, mais s'imposer dans un club comme l'Inter en défense centrale, et on sait que pour Didier Deschamps ça compte beaucoup ce statut aussi dans les grands clubs et savoir s'imposer là, on le considère autrement. Et après, comme l'a dit Benoît, il y a ce qui relève de rapport de force et aussi du concours de circonstances, les blessures, ce qui va se passer. Il est très bien placé pour le savoir, hein, parce qu'au Qatar il disparaît alors qu'il n'était pas censé.
Et il n'était pas censé jouer la Coupe du Monde d'avant.
Donc tout est fragile.
Un mot aussi sur Thuram, puis après on vous parle de Giroud, du transfert d'Olivier Giroud. Ça arrive là dans quelques secondes, Raphaël à l'info. Thuram, est-ce qu'il peut bouleverser la hiérarchie? J'ai l'impression qu'on pose cette question maintenant depuis le début de l'année. Bien compris que Colomoni était possiblement derrière, en tout cas statistiquement cette année. Il y a toujours Olivier Giroud, bien sûr. Il y a la piste, pourquoi pas, Mbappé dans l'axe. Il y a Thuram qui marque, mais qui n'a pas été si bon que ça en bleu. Vikash, on fait quoi avec Thuram?
Il y a Barcola qui pourrait rentrer dans le groupe et donc décaler Mbappé Mbappé dans l'axe. En plus, c'est deux joueurs qui jouent ensemble. Après, Thuram, moi, je pense qu'il est un peu devant Giroud. Et je l'espère aussi que, qu'un joueur comme lui puisse enfin être titulaire dans une grande compétition. Puis après, on verra si Giroud doit intervenir soit en cours de match, soit sur les matchs.
Mais il faut qu'il marque. Il ne peut pas être juste là parce qu'il est plus jeune.
La différence avec l'Inter, c'est qu'ils sont deux. Donc, ils travaillent beaucoup. Il crée des situations pour les autres et de temps en temps il marque et il fait des passes. Mais c'est vrai que c'est Lautaro Martinez qui est vraiment le mec axial et qui profite de cette association. En équipe de France, ça ne sera jamais le cas.
Alors on fait comment avec Thuram en équipe de France, Karine ?
Ouais, moi je ne suis pas trop d'accord avec Vicage. Ah. Pour l'instant, il n'est pas en avance par rapport à Giroud. La réalité, c'est que déjà, il est dans le groupe France, mais qu'il n'a pas assez marqué de points et que malheureusement pour lui, le match face à l'Allemagne, ça a été un drame. Collectif, mais il était titulaire, il n'a pas pu marquer de points. Et vu qu'avec Didier Deschamps, tu enchaînes rarement deux titularisations de suite quand tu es mauvais, et si tu n'es pas Mbappé, c'est un peu compliqué. Mais après, tout le monde aura sa chance de toute façon pendant l'Euro. Parce que
c'est flou quand même, non ? On ne sait pas qui est notre neuf.
Bah oui, ouais. Mais Giroud, il ne peut pas jouer 90 minutes.
Ça veut dire qu'il y a plusieurs solutions.
Oui, ou qu'il n'y en a pas une qui se démarque.
Ça se trouve, on va se retrouver avec Mbappé en neuf.
Ouais. Bah oui, parce que la piste Barcola, on l'évoquait hier longuement, en se disant que c'était aussi une possibilité.
C'est ça, c'est pas mal.
Non, parce que Kingsley Coman, a priori, ne devrait pas faire l'Euro. Ouais. Vous l'avez eu dans le journal hier, en privé, on nous disait qu'il ne ferait pas l'Euro. Donc, écoutez, on en parlera, on suivra ça de près.
Et, alors, deux informations, deux statistiques à vous donner sur Marcus Thuram. La première, c'est que c'est un porte-bonheur pour l'Inter cette saison. L'Inter qui a remporté 13 de ses 14 matchs lorsque Thuram a été buteur. Donc, dès qu'il marque, l'Inter a gagné le match où il n'y avait pas de victoire. C'était un match nul. Donc, il n'y a pas eu de défaite.
Non, pas perdu.
Exactement. Et alors, première saison avec l'Inter Milan, mais plutôt une première saison réussie. Les joueurs de l'Inter, lors de leur première saison, c'est le classement des plus décisifs sur leur première saison. Il a été impliqué sur 19 buts cette saison, toute compétition confondue, pour sa première saison. Il peut, sur une première saison, faire mieux que Zlatan Ibrahimovic, qui avait été impliqué sur 20 buts sur sa première saison avec l'Inter Milan.
Avant de parler de Giroud, un mot, Benoît, sur le choix du transfert. Vous avez vécu dans votre carrière plusieurs transferts. Certains réussis, d'autres qui ont moins bien réussi. Le choix, évidemment, ça compte pour beaucoup. Là, les deux, en choisissant l'Inter, alors qu'il pouvait y avoir des doutes, légitime quand vous quittez les clubs où ils étaient, surtout pour Pavard, quelle réussite quoi.
Ouais, quelle réussite. Je pense que Pavard, il a bien réfléchi à sa destination. Il savait qu'il avait envie de rejouer dans l'axe et surtout encore plus dans une défense à trois. Il savait qu'à l'Inter, on lui a sans doute loué ce projet-là. Et puis il s'est parfaitement intégré à cette équipe. Il a fait, il faut le souligner, il a fait une incroyable saison. Parce qu'il jouait dans cette défense à trois, il était capable aussi de prendre le couloir, il faisait quasiment tout sur ce couloir droit, donc c'est un excellent choix. Et Thuram, pareil, ils ont eu une bonne réflexion avec la famille Thuram de partir là-bas, parce qu'ils savaient très bien que c'était une équipe qui jouait à deux attaquants. Je pense que Thuram, il n'avait pas encore l'expérience pour jouer tout seul devant. Et là, jouer aux côtés de Lautaro Martinez, pour lui, il ne pouvait que progresser, qu'apprendre encore plus dans le championnat italien.
Raphaël, je parlais du transfert d'Olivier Giroud. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'Italie ou c'est la Californie ?
Non, ce sera la Californie. Alors, selon nos confrères de Foot Mercato, RMC, également le Parisien, il y a un accord total. Voilà, accord total trouvé avec le Los Angeles FC. Il va retrouver son copain, Hugo Lloris.
On l'avait annoncé ici avec MLS, Vincent et Loïc.
Exactement. Là, c'est l'information, c'est qu'il y a un accord total qui a été trouvé. Un an et demi plus une année en option. Conséquence ? S'il rejoint la MLS, il ne fera pas les Jeux Olympiques.
Ah oui. Ah oui, oui, mais je crois qu'il n'était pas très motivé.
Oui, mais à un moment donné, son nom circulait.
Oui, mais est-ce que. Je
pas, bon, avec cet accord total et donc le fait qu'il va rejoindre la MLS, c'est terminé.
C'est terminé. Terminado.
Terminado, exactement. Oui.
Terminado. Oui. Belle destination. Alors bon, je ne demande pas à Karine, parce qu'évidemment, si elle pouvait, elle ferait des bons. mais bon, Anthony.
Si vous me le proposez.
Oui, mais bien sûr. Non, mais non, les amoureux de ça. Mais là, sportivement, fin de carrière, c'est-à-dire qu'il dit possiblement. Définitivement adieu au bleu. Parce que faire une Gignac en MLS, c'est plus compliqué peut-être.
Oui, je pense que là, ça
sent. Il a l'âge. Hein.
Voilà, je pense que là, s'il s'arrête sur l'Euro et avec une saison à Milan,
c'est
parfait
pour
boucler l'histoire européenne. Donc, non, c'est parfait. Bah, comme c'est exactement la même chose que Lloris, en fait. C'est le meilleur moyen de finir une carrière dans un vrai championnat et un cadre de vie exceptionnel. Et il rejoint un copain, donc vraiment.
Vous irez faire des interviews de, pour moi, c'est le... de Olivier Giroud, vous.
Mais j'ai peur que ce soit encore Vincent Duluc.
Ouais, Vincent est très bon sur les interviews de Hugo Lloris et Olivier Giroud. Il va falloir... Peut-être qu'on pourrait faire une Greg Steen en Californie, toi, un truc un peu comme ça, on y va tout le
temps. Vous délocalisez, une délocalisation.
Direct. Absolument. Oui, je suis pas sûr que la direction soit chaude.
On va trouver des sponsors.
On va trouver des sponsors. American Way of Life, my friend. Il est quasiment 19h. Voici tout de suite notre premier jeu de la soirée. Il n'y a que 10 réponses. Donc ça veut dire que la question de rapidité est fondamentale. Le score hier entre Inter et Milan. Oui, Raphaël, vous êtes le plus rapide. Trouvez-moi les 10 internationaux français qui ont gagné au moins deux fois le championnat d'Italie depuis 1995.
Alors,
les 10 internationaux français, qui ont gagné au moins deux fois, ça peut être 2, 3, 4, 5, 20, le chemin d'Italie depuis 1995. Raphaël, je vous écoute.
Depuis 1995.
Enlevez votre silence, on ne vous entend pas.
Oui, pardon. 95. Bah, De Sailly.
Marcel De Sailly. Il est 11e de titre à partir de 93. Bonsoir, Raph.
Bonsoir.
Vicage Dorasso.
Trezeguet.
David Trezeguet, il a deux titres. Il est 8e de notre classement. Bien joué. Karine Galli.
Comment ?
Kingsley Coman, bien sûr. Kingsley Coman, deux titres. Il est en 4e position. Benoît Tremoulinas.
Lilian Thuram.
Lilian Thuram, c'est bon. Deux titres depuis 95. Anthony.
Rabiot.
Adrien Rabiot. Un seul titre pour Rabiot. C'est non. Alicia.
Paul Pogba.
Paul Pogba, 4 titres, évidemment. Bien joué. Vikash.
J'étais parti sur tous les vieux, mais j'ai changé les vieux de rayon.
Patrick Vieira.
Patrick Vieira. 5 titres pour Patrick Vieira. Bien joué. Karine Galli.
Deschamps.
Didier Deschamps. 3 titres. Didier Deschamps. Bien joué. Bien sûr qu'ils vous prennent les réponses, mais ils les connaissent. Benoît.
Zidane.
Zizou, bien sûr, deux titres pour Zidane. Vous devez le finir ce jeu, hein. Anthony.
Ben non, mais Manuel l'a perdu.
Allez, il a perdu.
Je vous avais les 4, mais j'ai choisi Rabiot parce que j'ai cru que c'était plus les vieux. Quand
oui, d'accord, mais ça m'intéresse pour vous débriefer.
Mais c'est qui l'a refusé?
Oui, mais vous êtes éliminé. Je joue pas
moi. Patrice Evra.
Patrice Evra, 3 titres. Bien joué, bien sûr. Vicage Dorasso.
Zébina.
Jonathan Zébina. Un seul titre pour Jonathan Zébina. Karine Galli.
Non, j'ai rien. C'est qui sont ces Français?
5. 4. 3.
J'ai rien.
2.
Ah oui, Matuidi.
Oh oui, 3 titres pour Blaise Matuidi. Sur le fil. Benoît, pour faire le sans faute, tout le monde, et vous aurez aussi gagné.
Olivier Dacour.
Eh oui, Olivier Dacour, 3 titres. Bravo, vous terminez ce jeu des 10. Félicitations à tout le monde, sauf à Raphaël Sebaoun.
Et Anthony Clément.
Et Anthony.
Oh, la délation, c'est bon.
La délation, c'est
voilà, la musique, tout ça, les potards. Évidemment.
Quel scandale.
Vous pouvez mettre le bingo, les copains? Non, là, ça, c'est la musique.
Ça, bah, du coup, ça marche pas.
Non, on va le refaire, regardez.
Qu'est-ce qu'on arrête là?
Alicia, allez-y sur le voir, parce que la délation c'est non évidemment. Bah attendez, je dis tout le monde a été brillant sauf Rafou et vous me dites et Anthony Clément.
Bah oui.
C'est de la délation de manière absolue. Hein. Tout à l'heure Alicia. Bon retour parmi nous Alicia. Vous hésitez le banc, évidemment. La délation c'est non, il doit être là, Romain Jegou, il me semble, pour qu'on prouve à la France entière quand même qu'on n'invente pas des bingos. Voilà la délation. C'est non. Voici le zapping. C'est Mathieu Monnier qui l'a préparé ce soir.
Avec Di Vincenzo qui ressort sur Brunson. Brunson à 3 points. Brunson!
Oh my goodness! Le drop!
Quel shoot! Oh! Pop, 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 pop! Il y aura jump ball ou pas? Oh,
ils
ballon par terre!
Sifflé.
C'est récupéré par les Knicks! Di Vincenzo à 3 points. Non, Hartenstein qui prend le rebond!
Oh my goodness!
Di Vincenzo acte 2!
Bang, bang, bang!
La cocotte minute!
Di!
La passe passe de Jesús Navas. Ça arrive maintenant dans les pieds de Suso qui attend de mettre ce ballon. Oh, quel centre! La tête d'Ednesiri, voilà comment Séville pouvait sortir de ce piège à l'heure de jeu. C'est le talent de Suso qui fait la différence avec ce centre appliqué. Oui, Suso, bien sûr, avec son pied droit en plus, il met ce ballon, il le dépose sur la tête d'Ednesiri.
Oh, avec un dribble, et voilà une action d'éclat, se mettre sous la dent, Maurice Wagner, dribble dans le dos, accélération, dunk.
Mais d'accord Lionel, pourquoi il n'est pas plus sur le terrain? Pourquoi il n'est pas plus sur le terrain? Ce dunk là, il est monstrueux.
Et dans l'histoire du derby milanais, il n'y a eu que deux fois que l'équipe...
Ah oui! Énorme,
exceptionnel, c'est allé très vite, trop vite.
Four screened by Jokic, knocked away by LeBron. The steal, the drive, LeBron James drops the sledgehammer. Three-point game, Jokic the other way. The pass down low, Gordon. Back to Porter. Tied.
Obligé de faire 20-30 mètres, mais il trouve quand même la solution. Avec Julien Dacosta, Dacosta qui remet pour le collier. La frappe, elle est déviée. Et ça finit au fond. Le break est fait pour Sochaux après 24 minutes. Grâce à Martin Le Collier, ça fait 2-0. Pas de chance pour Niort et pour Paul Delecroix. Ce ballon est dévié.
Murray makes a move.
J'avais vraiment envie de me faire plaisir, d'avoir une semaine dure dans les jambes avec du rythme. Et voilà, on sera à une semaine du Giro à la fin du Tour de Romandie. J'aurai pas de frein physique à essayer de récupérer ou quoi. Vraiment, je suis là pour donner le maximum, essayer de gagner. Ça serait bien pour le moral, mais aussi physiquement, voir un peu où j'en suis. C'est nouveau pour moi d'aller au Giro, donc j'ai besoin de rythme dans les jambes, mais je pense que d'être ici au Romandie, c'est la meilleure façon d'aborder le Giro.
Oh, it's brilliant. That was measured for Riley. Back to Labushkin, and on the right side it's Domi. Flipping it ahead, he's got Matthews in! Matthews scores! Go-ahead goal with 7:54 left! Austin Matthews with his 70th goal, regular season and playoffs this year.
Arrivé, il a passé le panneau 300 mètres, ça y est, encore un virage. Oh, il est en avance, Julien! Ça va être juste, ça va être derrière. Non, en tout cas, derrière, il fait un super
très
chrono.
Longtemps. 2 secondes seulement de concédé. Deuxième place provisoire pour Julien Alaphilippe.
Pas de double prime pour les Montpellierains après la victoire face à Reims. En revanche, triple prime. Oh, 6 victoires de Montpellier contre Nantes. Pourquoi?
C'est drôle.
Pourquoi me direz-vous? Parce que Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier, n'est pas du tout en bon terme avec les dirigeants nantais, messieurs Kita, Franck et Valdemar. Donc le meilleur moyen de motiver les joueurs et d'espérer que Derzakarian donc batte ses anciens employeurs, les messieurs Kita, triple prime
donc, mot contre
pour les joueurs ce vendredi face à Nantes, vendredi 21h, Montpellier-Nantes. Donc si les Montpellierains gagnent, c'est x3.
Ah, voilà pour cette triple prime. Revenez, Alicia, vous étiez sur le banc parce que, évidemment, la délation, c'est long. Benoît, la triple prime parce qu'il déteste Nantes, Derzakarian. Ça vous amuse, ça vous choque?
Ça m'amuse. Écoutez, si ils ont les moyens de le faire, qu'ils le fassent. J'ai jamais connu de triple prime pour un match de championnat. Parce que c'était là, ouais.
Enfin, là, c'est lutte pour le maintien, même
non,
si.
Non, mais surtout, Michel, il est malin.
Ah, Michel, donc.
Oui.
C'est un peu de même drôle.
Je l'ai bien connu en Ligue 2.
Voilà, alors, Mich, ouais.
Je l'ai bien connu en Ligue 2 et je l'adore. Non, mais parce qu'en fait, il propose une triple prime, mais c'est pas lui qui la paye.
Non,
c'est
la famille Nicolas.
En soi, c'est le président qui valide.
Oui.
C'est bien tenté. Je sais pas si c'est efficace.
Mais pourquoi pas? Oui, mais juste sur la rancœur, jouer, quoi. C'est pas. Parce que là, ils sont quasiment sauvés. Vous allez me dire, là, ils assurent le maintien.
Il a de bonnes raisons d'avoir quelques rancœurs.
Oui, oui, oui. J'ai pas dit qu'il avait tort, hein. J'ai pas dit ça.
Bon, bah, très bien. C'est lui qui nous a pris la prime.
Non, je pense pas. C'est le dirigeant. Ça, ça serait bon. Si c'est lui qui dit, je vous les donne sur mon salaire, ça, c'est.
C'est lui qui a la rancœur.
Mais je pense que ça.
Laurent Nicolin, lui, ça va.
Lui, il a pas de rancœur ni de triple prime. Il le savait pas encore. C'est Antoine Pinot. Rentre. Première partie du replay. Antoine, je suis désolé, Antoine. Il n'y a pas de raison, tu joues pas le maintien, tu joues avec des champions, il n'y a pas de donner une prime, quoi.
Je joue le maintien de l'existence en ce moment.
Et petits yeux, hein.
Ah, oh, moi je vous expliquerai.
Prends exemple.
Tout va bien. Qui a gagné, en fait, au jeu, là?
Bah, tout ce collectif, tout c'est Karine, Benoît et Alicia.
Enfin, sauf Raphaël et Anthony.
La délation, en
fait. Là, ça, c'est buzzer. Hein.
C'est la pire. Non, c'est bon,
retourne, hein.
C'est la pire. Enfin, je sais pas ce qui lui est arrivé hier, je sais pas les. C'est pas bien, hein.
Moi, je sais, mais.
Cela ne nous regardera pas. Gardons le festival de Cannes. Dans les yeux.
Exactement, il y a les conventions de Genève. On respecte les gens. Bon, alors tout à l'heure, il y aura deux nouveautés. Je retourne ma feuille pour lire, c'est mieux. Oui. Il y aura la garde à vue. Voilà, c'est une nouvelle chronique. Voilà, certains chroniqueurs sont en garde à vue pour mauvaise blague. Ah. Et puis, il y aura le tournant du match avec Loïc Tanzi vendredi dernier à cause de Sébastien Tarrago. Ah, il est tombé dans. Voilà,
il est tombé. Il est tombé dans le piège taraguesque. Oh,
bien bas, vous
c'était
allez
dur.
Voir. Mais pour l'instant, petit teasing, c'est parti. Et dans l'équipe de choc, on a une qualité, on tire pas les jeux de mots hein, quand ça se propose.
Je peux comprendre, hein, je cherche pas. Voilà.
Cas,
espérons que cette affaire soit close. On en parle plus. Close, pardon. On en parle plus.
Miroslav
Klose. Excellent. Jonathan Klose, très bien. Glenn Klose, comme ça, on est parfait. Allez, Santa Klose, c'est parfait. Voici le survivant. Allez, on y va.
Dans l'équipe de choc, on respecte le public qui nous regarde, comme Bertrand Latour. On mange pas, par exemple.
On rappelle que c'est demain le quart de finale retour. Français. Oh, combien important pour le PSG. Oui, bah il débute en français. Il a eu quelques
points. Mais il y a aucune ironie. Hein, il est arrivé il y a deux ans. Et tu me
manges, si tu veux.
Il est arrivé il y a deux ans et pas déjà français.
Non, mais respecte-nous Neymar, un petit peu, là. T'arrives en plateau à la bouche pleine.
Neymar est resté.
Ça me frappe, pardon.
T'emmerdes pas, bouffer en direct. T'emmerdes pas.
Ah non, t'emmerdes pas.
Incroyable.
Et puis Ludo Bragnac est à côté de toi, Draf. Alors ça te fout le bazar dans la tête.
Images dans quelques instants du Classico. Le podium qui s'éloigne, la Pologne elle est à côté de moi. Ludovico Bragnac après élimination.
Eh ouais, allez, faut passer loin là. Hop là, on se rattrape. Pas tout à l'heure, mon Antoine. Ce sera 20h24, puisque ce soir on rend plus tôt. Il y a Bordeaux-Dunkerque dans la foulée de l'émission. On s'arrête à 20h33 pour être tout à fait précis. C'est l'œil d'Alicia, un horaire inhabituel, mais parce qu'on va parler de Brest.
Ouh. Pas de pression.
Vous réalisez une saison exceptionnelle. Vous serez sans doute européen pour la première fois de votre histoire, ce qui est quand même un sacré exploit quand on est Brest en championnat. Et là, on vous annonce que vous allez jouer devant 5000 spectateurs dans votre stade. Verdict de l'UEFA. Il y a de quoi tomber de quelques étages quand même. Tout l'intérêt pour Brest, c'est de jouer à Francis Leblé, dans un stade plein, devant ses supporters. Si c'est pour aller à la Beaujoire, au Moustoir, au Roison Park ou au Rodou Rouge, je ne vois absolument pas l'intérêt. Alors ok, il y a des règles. Le stade repose sur des structures tubulaires, c'est-à-dire métalliques et non des fondations. Mais si c'était une question de sécurité, pourquoi il y aurait une dérogation pour les matchs de Ligue 1 chaque week-end? Surtout que les fameuses structures de Francis Leblé, elles bougent pas, elles sont restées en l'état depuis 2010. Pourquoi subitement elles s'effondreraient pour des matchs de Ligue des Champions? Donc il pourrait totalement y avoir une dérogation de la part de l'UEFA aussi. Ou se montrer peut-être un peu plus souple et autoriser seulement une seule tribune de 5000 places, c'est totalement ridicule. Surtout que le club, il y a quelques années, a réhabilité les lieux sur l'aménagement des parkings, sur l'aménagement de certains sièges, sur la rénovation des espaces VIP et des médias, que la sécurité, je le répète, est un sujet central à Brest. Alors après sa saison, Brest mérite un autre dénouement. Brest mérite de jouer dans son stade. Brest mérite de jouer devant ses supporters. Mais que voulez-vous, Brest dérange.
Oh, Brest dérange. Grand œil,
le
ce
dérapage
soir.
Final.
Le dérapage.
Ça allait bien.
Le dérapage final. Mais non, mais voilà, mais
vous avez la ref.
Après, c'est une prise de parti. Oui, on a la ref quand même. C'est pas complètement neuneux. Alors maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est un scandale, voilà, cette histoire de 5000 places, si Brest joue l'Europe l'année prochaine? Regardons vos réponses. Bon, pour Alicia, a priori. Oui, énorme scandale. Scandale absolu pour Anthony. Ben oui, nous dit Benoît. Alors Karine qui ne veut pas répondre à la question nous dit très dommage. Va falloir vous mouiller, hein,
oui,
petite Karinette. Et oui, bah oui, il va falloir vous mouiller là-dessus. Bah non, c'est pas scandaleux, nous dit Vicage Dorasso. Fais. Ça, voilà, c'est bien quand vous. Non mais j'aime bien quand vous êtes un peu viril comme ça, comme ça que vous attaquez l'UEFA là. La petite machine, la bestasse. Anthony, Oui. C'est un scandale absolu. Je viens vers vous parce que c'est l'ardoise la plus absolue du plateau.
Oui, c'est un scandale absolu parce que justement, l'UEFA n'a eu de cesse de promouvoir la méritocratie et la conception pyramidale du sport de haut niveau, du football de haut niveau pour se démarquer de la Super League qui était réservée à des gros clubs. Là, on a un exemple parfait avec Brest, de petits clubs qui arrivent à se hisser à la force de son mérite sportif. Tout en haut d'une compétition européenne, et on lui refuse l'accès à cette compétition dans son stade pour des raisons, comme l'a brillamment expliqué Alicia, obscures, parce que si c'est une question de sécurité, les tubulaires, ils ont fait leur preuve à Brest, ça n'a absolument aucun sens. Si vous avez des critères...
Non, mais il y avait des histoires de parking, oui, par exemple, la tribune de presse est trop petite pour accueillir...
Non, la tribune de presse, c'est loin d'être la plus petite de France, non, à Brest.
Pour l'UEFA, je parle pas pour moi.
Et non, là, l'argument, c'est les tubulaires. Donc cet argument-là, moi, je ne le comprends pas, à moins que en France, on soit totalement inconscient sur de sécurité.
Alors, expliquez tubulaire quand même, parce que tout le monde peut
être... Structure métallique.
Structure métallique.
On peut démonter.
Voilà, donc Alicia, elle fait à votre place, parce que visiblement, vous n'êtes pas très bon sur les tubulaires. Hein.
Non, mais j'étais à Brest quand ils les ont montés, la tribune d'en face, en 2010.
Vous êtes très, très, très moyen sur les tubulaires.
Ça fait, ouais, c'est un peu mon talent d'Achille.
Ouais, j'ai l'impression que le tubulaire.
Non, mais ça fait quand même 14 ans que ces tribunes existent, il n'y a pas eu la moindre alerte.
Donc, oui, oui. Mais est-ce qu'il faut être vigilant quand même?
Oui, il faut être vigilant. Non, mais évidemment que dans l'idéal, un stade en dur, pourquoi pas. Mais enfin, et puis ce stade-là, c'est ce qui fait le charme de Brest aussi. Donc Brest qui joue dans une aréna de 50 000 personnes, c'est pas Brest. Donc à un moment donné, c'est quand même intéressant, même pour l'UEFA, d'avoir des clubs qui font honneur à cette méritocratie et qui peuvent montrer qu'on peut disputer ces compétitions sans rentrer dans la case du géant qui joue dans une aréna qui ressemble à toutes les autres.
Bon, alors là, c'est David contre Goliath, là, dans la bougeante. Mais ça m'étonne pas. Il aime pas le VAR, tout ça, c'est parfait. Vicage Dorasso, pas scandaleux?
Non, mais...
Bonne chance à vous, hein.
Non, il m'a convaincu.
Je le connais, ce regard, c'est terrible, J'aurais dû aller vers lui en premier, je le sais,
Premier. Tout ça, mais c'est le cahier des charges de l'UEFA. Mais moi, je...
Vous n'aimez pas l'UEFA?
Ben, je ne suis pas un fan de l'UEFA, donc on se bat contre la Super League. Moi, je trouve que la Super League, elle montrerait que l'UEFA n'est pas la seule à pouvoir organiser le foot et aller affronter l'UEFA et dire, voilà, nous, on veut... nos normes, les normes françaises sont bonnes pour les normes européennes. Moi, ça me plairait. Mais à partir du moment où il y a l'UEFA qui organise et qui impose sa loi, c'est pareil pour le foot amateur. Par exemple, la FFF, elle impose des normes pour les stades. C'est une catastrophe. C'est tellement dur pour les clubs de suivre. Là, c'est pareil.
Brest, on a connu des drames par le passé, dans différents stades, dans différents clubs. Si vous ne prenez pas des mesures à un moment qui sont impopulaires, est très difficile à tenir.
Les drames, ils n'ont pas eu de tubulaire.
Non, mais je parle dans l'ensemble des tenues de stade. Vous ne pouvez plus aujourd'hui vous permettre ce qu'on a vécu en fin de siècle dernier, des années 50 à 2000, on va dire, ce genre de choses. Malheureusement, même si ce n'est pas toujours les mêmes causes.
Je crois qu'aussi l'UEFA, elle met le niveau de la compétition avec tout ce qui décore le match de foot. Tout est différent en Ligue des Champions. La préparation, l'avant-match.
Mais ce que vous voulez dire, Anthony, c'est le côté champêtre qui pourrait être sympa.
Et ça peut pas aller avec
la soirée. Il n'y a pas d'ironie dans mon mot.
Ça peut pas aller avec la soirée qui présente.
Ouais. Et alors, si Brest décide de finalement jouer dans son stade Le Blé, 5000 personnes maximum, ce serait un record pour un club français en Ligue des Champions. Le précédent record date de 1967. C'était Saint-Etienne face à Paioseura, club finlandais. Il y avait 5279 spectateurs. On a regardé au XXIe siècle le record de la plus petite affluence en Ligue des Champions, donc à partir des phases de groupe. C'est arrivé donc une fois 10 000 spectateurs. Ah oui. C'était le FC Urina Urziceni, club roumain qui avait accueilli pour un match de Ligue des Champions.
Là, écoutez, j'ai beau avoir une émission de foot, à mon nom, j'ai deux clubs sur trois, à part Saint-Etienne, dont je ne connaissais pas l'existence il y a encore deux minutes. Merci,
pas très bien, un petit peu, quand
mon cher Raphaël, bravo. Non, mais après, Karine, c'est vrai que se dire que vous bossez toute une saison, que vous pouvez aller jouer les plus grands d'Europe dans la nouvelle formule en championnat, vous dire, tiens, pourquoi pas, et puis jouer devant 5000 personnes, là, ça peut même peut-être leur gâcher la fin de saison, non, au Brest?
J'espère pas, non. Non, il faut.
Vous allez dire, on fait tout ça pour ça, finalement?
Oui, mais dans tous les cas, la Ligue des Champions, ils l'auront. Moi, j'espère. Après, c'est à eux, évidemment, de décider par rapport aux sous, qu'ils iront jusqu'au bout et qu'ils décideront de jouer devant 5000 personnes. Je trouve que ça serait la plus belle des réponses, au final, parce que jouer à Nantes, jouer à Guingamp.
Tu peux même pas jouer devant tous tes abonnés si tu joues à 5000.
Oui, mais bon, si tu joues à Nantes et à Guingamp ou
à Rennes,
c'est vraiment.
dénaturer cette saison fabuleuse que tu as vécue. Ça n'a aucun sens. À Guingamp, c'est des ennemis jurés. Nantes, bon, pourquoi Nantes? Rennes, pareil. Donc, je trouve que c'est évidemment dommage. Après, il y a une charte, il y a des règles. Et malheureusement, s'il y avait un drame, tout le monde se retournerait aussi après contre Brest et les responsables. Donc, c'est ça. C'est, en fait, c'est inextricable.
Et d'où tu veux un drame? C'est exactement le même nombre de personnes qu'en Ligue 1. Non, mais. Ça, c'est les mêmes matchs, hein.
Sauf que la réalité, c'est que si demain, il y a un drame en Ligue des Champions, il y aura des procès, des recours, etc. Donc, je trouve ça très dommage, mais malheureusement, là, les Brestois, ils sont bloqués. Oui, mais ils vont pas construire un stade d'ici cet été.
Non, ça, c'est sûr.
Donc, voilà, 5000 personnes, eux, ça leur convient pas et c'est normal, mais je trouve que c'est quand même plus beau de jouer devant 5000 personnes qu'à la
grande tribune vide et la grande tribune vide. Vous l'avez vu, hein, les solutions de repli. Le problème, c'est que c'est grand, hein, l'Ouest, la Bretagne, même si on élargit un petit peu. 117 km pour aller à Guingamp si on choisit le Rodeuroux du côté de Brest. L'Orient, c'est loin. C'est des trajets de 2 heures en quart, voire même un peu plus. Si on veut jouer au Razon Park,
c'est 245
km. Donc c'est vraiment, exactement. Donc il y a quand même aussi cette contrainte qu'il faudra prendre en compte pour Brest s'ils décident de se délocaliser dans l'un de ces 4 stades.
Il n'y a pas de bonne solution, de toute façon.
Pour ceux qui ne connaissent pas très bien la géographie française, on pourrait dire que c'est la Bretagne, rien n'est très éloigné.
Très
Brest,
grand.
Quand vous êtes à Brest, vous êtes presque plus près de New York que de Nantes. Hein.
Oui. Ils, eux-mêmes, ah ben, il n'y a plus rien rigolant. Après.
Non, mais voilà, vous êtes
il y a
une
deux fois de voie quand même, donc ça avance pas.
Non, mais d'accord, mais là, il a raison, Raph. Je veux dire, en termes de kilomètres, oui. Vous êtes supporter.
Mais vous faites 2 heures et demie de route. Ah
c'est compliqué, là. Je veux dire, les stades comme Rennes et Nantes, aller-retour, vous faites 600 bornes dans la journée, c'est compliqué. Benoît, un dernier mot sur ce thème. Mais le regard du footballeur, voilà, moi, plutôt que voilà, les instances ou ce que vous voulez, dans quel état d'esprit ils peuvent être et dans quel état d'esprit, s'ils jouent la Ligue des Champions, par exemple, ils pourraient être, parce que là, ils sont top 4, quasi certains, peut-être barrage, en tout cas, Ligue Europa. Qu'est-ce qui se passe là dans leur tête aux joueurs?
Je pense que quoi qu'il arrive, qu'ils se qualifient en Champions ou en Europa League, ils seront tous très heureux et très fiers de leur parcours, parce que clairement, ils étaient programmés pour jouer le maintien. Il faut pas se mentir. Après, effectivement, lorsque vous préparez une saison et que vous vous dites bon, top, on joue la Champions sous l'Europa League, mais on va peut-être jouer à Guingamp ou à Nantes ou à Rennes, c'est plus un match à domicile, clairement.
Mais alors, qu'est-ce que vous préférez, vous, en tant que joueur? Karine a posé la question. J'aimerais bien une réponse.
Je me fais transférer, moi. Je change. Déjà, je vais jouer.
Bon, Vicage se fait transférer, mais vous?
Jouer devant 5000 personnes en Champions League, c'est pas, il y aura pas d'ambiance, il y aura des abonnés qui seront lésés parce que
ça fait 3 tribunes fermées, hein.
Exactement. Ouais, oui, parce que je suis persuadé qu'ils ont plus de 5000 abonnés, donc il y aura des abonnés qui seront lésés, des gens aussi qui seront lésés. Et puis la Champions League sera pas non plus tous les ans à Brest. Ils arrivent à se maintenir tous les ans dans le haut du tableau. Je pense que clairement au plus proche, c'est-à-dire alors même si c'est des ennemis jurés, mais Guingamp,
ils ont joué à Lens, hein. Lens, c'est pas beaucoup.
Pour un joueur jouer dans son stade, c'est ses habitudes.
Mais là, il y a 3 tribunes sur 4 qui seront vides. C'est-à-dire que c'est pas 5000 personnes réparties. Hein.
Même pour le club, pour le club aussi.
Non, mais c'est un manque à gagner pour le club. Et puis c'est comme tu dis, Vikash, c'est aussi un manque de repères de joueurs à l'extérieur. Mais par contre, vous jouez Champions League contre un gros club, vous avez envie que le stade soit plein, qu'il y ait de l'ambiance, il y ait 5000 personnes, des tribunes vides, je préfère jouer à la Guingamp, clairement.
Bon, écoutez, on suivra ça de très près, en souhaitant évidemment que Brest jouera l'Europe, a priori,
mais oui,
tout le monde est OK sur ça, et espérons pour eux la Ligue des Champions, mais enfin, en attendant, ils sont 4 à être dans le top 4 avec quelques points d'avance. Le barrage, c'est pas encore une certitude. Oui, ils sont 3e, vous avez raison. On va descendre en bas, nous, parce qu'on a parlé du haut, là, avec Brest, on en a fait hier une course à l'Europe, on va faire la course au maintien. Qui va monter, qui va descendre, qui va jouer les barrages. On aura également le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell, le replay d'Antoine Pinault, le foutoir de Raphaël Sebaoun. Et puis Gonçalo Ramos, est-ce qu'il est désormais prioritaire pour succéder en tant que neuf à Kylian Mbappé? Et on voit le bus des Girondins de Bordeaux, je vous assure, c'est pas ma caméra personnelle, ni celle de Benoît Tremoulinas, mais ce soir, il y a Bordeaux-Dunkerque. Nous serons du côté du Matmut Atlantique. Albert Riera qui fait polémique en ce moment. Les Bordelais qui ont besoin de points s'ils ne veulent pas trembler en fin de saison. C'est à suivre dès 20h30, 20h40 pour être précis. La fin de l'EDG, on viendra à Bordeaux. À tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, il est 19h30. Merci d'être avec nous. Hier, on s'est intéressé à la course au maintien. Eh bien, ce soir, c'est le baromètre de la course à la descente. Non, hier, c'était la course à l'Europe. Ce soir, c'est le baromètre du maintien. Qui va descendre? Qui va monter? Qui va jouer les barrages? Eh bien, réponse tout de suite avec notre baron. C'est c'est serré, Raphaël, en bas du classement. Hein.
Et 8 des 10 matchs, en tout cas, qui se sont joués ce week-end, étaient concernés par la lutte pour le maintien, la mauvaise opération de Lorient, la mauvaise opération de Nantes, celle de Clermont également, la défaite de Strasbourg face à Lille. Le Havre aussi a fait une mauvaise opération, une très bonne opération pour Metz. On va voir justement le classement, vous en avez un petit peu parlé. La deuxième partie de tableau, c'est celle qui nous intéresse. Regardez, pour l'instant, c'est toujours Clermont qui est 18e. Loin, 17e Lorient, mais avec un match en moins. Et puis, cette équipe du Havre qui est en position de barrage.
Je précise aux supporters clermontois que cette semaine, nous les laissons en paix, hein, puisqu'ils sont régulièrement en difficulté. On s'intéresse aussi aux autres équipes dans le maintien, puisque là, on ne peut pas mettre tout le monde. Donc, on y va. Pour un beau barreau, il faut des tops, il faut des flops. Qui est triple top de ce baromètre du maintien? Bon, on prend la direction de Metz, avec Miko Tadze.
Inarrêtable. C'était face
au roi Georges, là.
Importantissime, le retour du roi. Le roi de Metz, le roi de la Lorraine. Depuis son retour à Metz, c'est 8 buts en 13 matchs, 2 passes décisives. 5 buts sur les 3 derniers matchs. Sa note moyenne, 5,2 sur 10 dans le journal de l'équipe. On va écouter son entraîneur, Laszlo Bologni, qui le compare, alors toute proportion gardée, à Kylian Mbappé.
Carrément. Quand tu as un buteur, c'est la plus grande bonheur. Maintenant, Miko Tadze, il n'est pas Mbappé, mais il reste l'Mbappé de FC Metz.
Alors, Anthony Clément, la réalité, c'est quand même qu'il est, comment dire, au-dessus. Miko Tadze, il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe où il a échoué à l'Ajax, ça peut arriver. Mais il est surdimensionné possiblement pour Metz. Mais il va les aider, là, en cette fin de saison. Il est en train de les sauver à lui tout seul. Mais
si Metz se maintient, il peut faire une statue à Miko Tadze, il peut faire aussi une statue aux dirigeants de l'Ajax Amsterdam, parce que c'est le rêve absolu en fait, pour un club de Ligue 1, c'est que vous vendez votre meilleur joueur une belle somme. Puis on vous le récupérez 6 mois plus tard et vous êtes le seul à pouvoir le prendre. Oui, donc, parce qu'il a déjà joué chez vous en début de saison. Franchement, ça, c'est, je pense que tout le monde va rêver de ça.
Mais vous imaginez un tel comeback? Parce que au début, ça a été compliqué. Et puis là,
oui, mais surtout qu'il revient en plus dans un contexte pas facile. Il avait porté Metz pour monter en Ligue 1. C'était vraiment tout autre chose. Là, il revenait dans une équipe en crise où on se disait est-ce qu'il sera capable. En plus, après 6 mois totalement vides. C'est ça aussi. Il faut être capable de se relancer là dans tout autre contexte. Et finalement, on s'aperçoit que c'est vraiment un joueur à part. Et comme vous l'avez dit, c'est un joueur qui peut jouer partout sauf au PSG, je pense, en Ligue 1.
Ah carrément.
Bon, bah oui.
Pas. Bah, je pense que Marseille crache pas dessus, Lyon non plus. Est-ce qu'il va les sauver, Benoît? La question, c'est ça. Je vous demande pas une boule de cristal, mais est-ce que là, dans le momentum actuel, dans la dynamique actuelle, est-ce que Miko Tadze va sauver Metz?
Ce qui est important pour Metz, c'est qu'aujourd'hui, il est au top de sa forme. Il est revenu, il a eu quelques matchs, les premiers matchs, il a eu du mal à se remettre dedans, puis ça s'expliquait aussi.
Il joue pour lui là. Faut jouer que pour lui.
Je pense qu'il ne se pose même pas la question. C'est-à-dire que là, les médecins, souvent, lorsque vous avez un... Moi, je me souviens, lorsque j'étais à Bordeaux, Jean-Louis Gasset disait « Donnez à la technique, donnez à Johan Gourcuff », parce que c'était notre maître à jouer. Là, à Metz, c'est le maître à jouer, c'est lui qui fait les passes D, c'est lui qui marque, donc forcément, ils joueront pour lui.
Allez, on va enchaîner avec le double top, et c'est Michel Derzakarian.
Oui, l'entraîneur de Montpellier qui arrive en forme sur cette fin de saison avec son club. 4 victoires sur les 6 derniers matchs. Montpellier a marqué lors de chacun de ses 11 derniers matchs de Ligue 1. Seulement, ça fait une meilleure série. Et puis, Montpellier a gagné 3 de ses 4 derniers matchs à l'extérieur. Il voyage bien. Après la rencontre, regardez la déclaration sur le maintien de Michel Derzakarian. J'avais dit qu'il nous faudrait 38 points pour se maintenir. On n'y est pas encore. Mais c'est un large pas. C'est bien. Ils sont 12e avec 36 points. Alors, selon Michel Derzakarian, il leur manquerait 2 points. Et puis, on vous rappelle l'information qu'on a vue dans le Zimping, c'est dans l'équipe de choc signée Bertrand Latour. Il y aura le match face à Nantes. Et on parle de cette triple prime aux joueurs en cas de victoire de Montpellier face à Nantes. C'est la volonté de Michel Derzakarian, lui, l'ancien coach de Nantes, qui est ultra fâché, bien évidemment, avec ses dirigeants.
Bon, Karine, je viens vous voir pour Michel Derzakarian. Est-ce qu'il a sauvé Montpellier, là?
Michel.
J'ai dit quoi?
Michel Derzakarian, mais c'est juste.
Ah oui, Michel.
Michel.
Derzak.
La
Michel.
Derzou.
Ou Derzak.
Mimi, quoi.
Personne l'appelle Michel Derzakarian, c'est trop long. Mais je suis ravi parce qu'honnêtement, leur saison a été compliquée. Il faut quand même rappeler qu'il y avait quand même un abruti qui les avait empêchés de gagner le match face à Clermont. Ça avait été une bascule parce que ce match-là était très important. Ils l'avaient gagné sur le terrain, puis finalement, une décision leur avait enlevé la victoire et leur avait imputé un point de pénalité. Et derrière, ils avaient eu une série terrible où ils ne gagnaient plus un match. Donc je suis très contente pour eux s'ils restent en Ligue 1. En plus, Laurent Nicolin, c'est un des seuls présidents qui clairement est droit, objectif et il ne mange pas.
Oui.
Laurent, justement.
Non, je ne le connais pas bien. Non, mais Laurent Nicolas, moi, c'est un président qui, lui, ne vend pas son âme aux supporters. Il est droit dans ses bottes, il est toujours carré, il joue le jeu pour les JO, il pèse contre ses supporters quand ils sont absolument odieux et qui jouent contre leur propre club.
Il a pas peur de dénoncer.
Voilà. Bah oui, mais c'est rare, des gens.
Vous avez raison.
Donc, j'ai envie que Montpellier reste en Ligue 1.
Et le simple top, c'est Toulouse qui a quasiment assuré son maintien aussi.
Oui, ils sont 11e, un point de plus que Montpellier. 37 points pour les Montpelliérains. Alors, maintien à qui? On est allé demander et regarder la statistique. Ça, c'est 100%. Dans une Ligue 1 à 18 clubs, tous ceux qui ont eu 37 points après 30 journées se sont maintenus à la fin de la saison.
Comment on la lit cette saison de Toulouse, Vicage Jorasso? Parce que ça avait mal démarré. On était là, sur Novelle, Montagnier, puis ils font une belle prestation en Coupe d'Europe, ils remontent bien là.
Faudrait demander au gars qui gère les stats à Toulouse. C'est quand même comme ça qu'ils analysent leurs matchs. Et alors, est-ce que leur saison est bonne ou pas bonne, ça on le saura.
Mais vous, en tant qu'humain et pas data?
Bah, ça, depuis ce qui s'est passé l'an passé, ça m'intéresse moins de voir une équipe, un club qui gère que avec les data, qui gère l'entraîneur, les joueurs, le recrutement. Je sais que c'est ce qui va se passer peut-être à l'avenir dans pas mal de clubs, mais ça m'intéresse beaucoup moins et Toulouse m'intéresse moins en fait.
Le bonus.
Il n'y a pas qu'avec les data d'ailleurs.
Le bonus. Vous savez comment il est Vicache, ami Toulousain. Vous ne vexez pas, il l'a dit pour d'autres équipes.
Oui,
surtout
cache.
Quand ça lutte contre le Havre. Ouais. Patrick Vieira, Alicia.
Oui, il compte un point de moins que les Toulousains, les hommes de Patrick Vieira qui sont 13e au classement. Il n'était pas loin de réussir un beau coup face à Lille dimanche, mais il aurait fallu entrer dans le match tout de suite. Ils ont mis une période à entrer dans ce match-là. C'est pour ça qu'ils sont dans les flops aujourd'hui. Petit coup d'arrêt pour les Alsaciens qui restaient sur 3 victoires et un match nul. Ils auraient pu profiter d'une certaine fatigue physique. On rappelle les Lillois qui ont été éliminés par Aston Villa en Ligue Europa Conférence jeudi dernier. Ils ont eu des occasions en deuxième période. C'était avant tout un Patrick Vieira déçu, avec quelques regrets après le match.
Je dirais que c'est la frustration qui domine, parce que quand on regarde les occasions créées par les deux équipes sur cette deuxième période, je pense qu'on méritait de marquer ce but et de repartir d'ici avec un point. On prend ce but sur une erreur individuel qui nous met vraiment en difficulté.
Oula,
petit chat dans la gorge
là.
Ça nous arrive souvent ici en plateau. Strasbourg qui a encore un peu de marge sur le barragiste havrais, désolé Vicache, mais qui rencontre Nice le week-end prochain, l'ancien club de Vieira.
On passe au flop, ça s'est moins bien passé pour eux et on commence par Lorient, Raphaël.
Qui a perdu face à Nice sur score 3 buts à 0. Les Lorientais sont 17e, on vous le rappelle, avec un match en moins. Le bilan sur les 5 derniers matchs, 4 défaites, 1 nul. 2 buts inscrits seulement, 10 buts encaissés. Sur cette période, les Lorientais sont passés de la 13e à la 17e place.
Danger, Karine, pour Lorient. En plus, ils jouent Paris demain.
Ben oui. Oui. Mais comme je vous l'ai dit, ça dépend en fait du.
J'en sais rien, vous l'avez dit il y a une heure et demie sur autre chose. Oui. Je vous réveille.
Parce que je réfléchissais à leur buteur. Bon, bref.
Ah oui, c'est pas grave.
Oui, mais ça dépend en fait. Peut-être qu'honnêtement, demain, ça peut leur permettre d'aller gratter un petit point. Si,
quel échec quand même par rapport au budget, par rapport aux ambitions début de saison. On avait dit l'affaire Lebris, tout ça. Je sais pas.
Non, mais sauf qu'il faut quand même rappeler tout le contexte. L'an dernier, au mercato hivernal, ils perdent leurs deux meilleurs joueurs.
Oui.
Régis Lebris et Loïc Ferry, le grand amour, ça s'était bien refroidi.
Il a fait le choix de le garder.
Bah oui, parce qu'il avait un contrat énorme et parce que lui, il espérait partir à Nice, il faut quand même se souvenir. Donc en fait, il y a eu quand même beaucoup d'aléas dans cette saison.
Il le paye ou pas ça?
Bah, d'une certaine façon, sûrement, oui. Après, ils sont pas non plus complètement morts, mais ils ont perdu leurs meilleurs éléments. Alors, ils ont bien recruté cet hiver, mais malheureusement, ça n'a pas été une saison très linéaire. Après, Lorient est toujours...
Non, pas l'an dernier, c'était pas mal l'an dernier.
Non, mais Lorient débute des saisons pour jouer le maintien à la base. Parfois, ils surperforment, mais Lorient, c'est un
club. Ils surperforment, ils vendent leurs joueurs l'hiver, et donc du coup, ils se retrouvent à plus
surperformer. Voilà, mais comme ça, ils ont fait de l'argent.
C'est leur, championnat, c'est le maintien, c'est pas une
bonne idée. Mais Brest n'a pas vendu ses joueurs l'hiver, il peut continuer de briller.
Merci Anthony. On passe au double flop, c'est Antoine Comboiré.
Oui, Antoine Comboiré, l'entraîneur du FC Nantes qui a perdu à domicile contre Rennes sur le score 3 buts à 0. Des Nantais qui, à la Beaujoire, pardon, ont d'énormes soucis. 8 défaites à domicile en Ligue 1, 7 matchs sur 16 à domicile sans marquer également, et puis au moins un but encaissé lors de chacun de ces 8 derniers matchs à domicile. D'énormes difficultés donc à domicile. On va l'écouter justement, Antoine Comboiré, nous parler du maintien.
C'est juste un peu dans les têtes où c'est un peu dur en ce moment parce que bah, dès que vous prenez un but, c'est compliqué. Ici à la Beaujoire, bah, vous êtes sur 9 défaites consécutives, donc c'est compliqué. Donc si on doit aller chercher le maintien à l'extérieur, moi je signe tout de suite. Hein. C'est une saison à travailler dans ce sens-là, quoi.
Ils sont illisibles, ces Nantais. Je crois que même pour leur coach et pour eux, un coup ça gagne, un coup ça perd. Bon, si c'est comme ça jusqu'à la fin, ça se maintient. Hein.
Oui, oui, mais c'est surtout qu'il y a eu un petit frémissement avec le retour de Comboiré, parce que voilà, c'était le...
De victoire.
Après Gourvennec, et on a l'impression qu'ils sont rattrapés par leurs limites structurelles, en fait. C'est pas vraiment un effectif taillé pour aller très haut, et c'est vrai que c'est vraiment une très dure saison, et perdre le derby comme ça, ça assombrit vraiment
très nettement,
déjà ouais. le début du mandat Comboiré.
Ils vont à Montpellier, ils vont à Brest, ils reçoivent Lille, pas simple. Hein,
pas simple, mais ils gagnent à l'extérieur, donc c'est plutôt bien pour eux.
Oui, c'est pas faux.
Les quatre derniers matchs les quatre matchs de Comboiré, c'est deux victoires, deux défaites et deux victoires à l'extérieur. Ils ont trois déplacements, donc tant mieux pour les Nantais.
Et on termine avec les Havrais qui sont triple flop.
Ouais, impuissance du port du Havre, jeu de mots que vous allez voir affiché sur le tableau. Désolé, Vikash, la défaite 1-0 à domicile contre Metz. Première fois que le Havre est dans les trois derniers cette saison. Le Havre qui est resté muet pour la 15e fois en Ligue 1 cette saison. Total le plus élevé, puis 8 défaites sur les 10 derniers matchs. On va écouter Lucas Elsner, le coach. Il y a un genou qui est posé à terre.
On peut être abattu, mais quand on est dans le sport de haut niveau, on sera abattu quand la dernière journée sera passée, la dernière minute sera passée, en fonction des résultats. C'est pas le moment maintenant. En termes de points, nous ne sommes pas loin des possibilités de nous maintenir. Et on doit vivre de ça, on doit prendre de ça et repartir à la bataille, même si nous avons un genou à terre, voire plus qu'un genou à terre aujourd'hui.
Vika Jorasso, je viens vous voir, évidemment, parce que ça semblait bien parti pour le maintien. Il y avait la 12e, 13e place, ça naviguait dans ces eaux-là. Il y avait le sursaut avec le retour d'Ayou aussi, qui avait mis des buts qui pouvaient compter. Là, ça enchaîne mal et on voit Lucas Elsner qui est inquiet, hein. Clairement qui est inquiet.
Inquiet de quoi? On est à notre place, mais c'est le scénario, c'est le... Voilà, qui est vraiment pas bon. Le but contre Nantes, il est terrible de faire 0-0 contre Nantes, c'est quand même mieux. On n'a pas si mal joué que ça. Et puis la différence avec Metz, c'est qu'ils ont un buteur, on n'a pas de buteur. Alors, ils cherchent des solutions avec des jeunes joueurs.
Même des joueurs qui s'entraînent, qui s'échauffent pas.
Voilà, donc c'est difficile. Est-ce qu'il y a l'énergie pour cette équipe d'aller chercher le maintien? Est-ce qu'ils sont capables? Parce que historiquement, le Havre, normalement, joue le maintien. Normalement, c'est ancré, c'est nos valeurs. Normalement, il y a ça en nous. Est-ce que ces jeunes joueurs... Ça craint aussi, hein, parce que nous, on va jouer Paris la semaine prochaine. On a Marseille, Strasbourg, Nice. On a un calendrier qui n'est pas sympa. Est-ce qu'il y a le moral dans l'équipe? Lucas, c'est la première fois où il dit qu'on a posé un genou quand même à terre. Voilà, moi j'y crois de nouveau. Je suis supporter de cette équipe et je vais quand même les soutenir jusqu'au bout.
Moi, l'émotion, hein. Bien, il parlait avec le cœur.
J'avais des larmes aux yeux quand il a marqué.
Bah oui, je sais. C'est pour, mais quand j'ai dit ça, il n'y avait pas une once d'ironie. Parce que je sais que ça vous touche, évidemment.
On embrasse votre maman.
Le marquage et la culotte. Non, mais là, par contre, c'est fini. Le marquage et la culotte de Jonathan O'Donnell. Le foutoir Gonzalo Ramos à la place de Mbappé. Un nouveau jeu et le replay d'Antoine Pinot. À tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg dans un instant. Le foutoir, Gonzalo Ramos à la place de Mbappé. Le replay, on jouera aux survivants. Mais tout de suite, voici le marquage et la culotte. C'est Jonathan O'Donnell. Eh mon Jojo, ça va le Jojo?
Ah bah ça va plutôt pas mal, hein.
Viens plus lentement encore.
Non, sur toi, j'ai mis une petite accélération.
Tu sais que maintenant Pinot vient en courant, hein.
Oui, bah oui, mais il a besoin de courir, mon Pinot. Alors, tu viens regarder comment je suis svelte et tout ça. Bah, je l'adore.
C'est le pire d'entre nous.
Je suis très content d'être là et très content d'avoir Vikash pour une fois.
Mais oui, t'as jamais Vikash dans
l'assaut. Non, parce qu'il m'avait dit le mardi, voilà, je fais du bénévolat, des associations, tout ça. Puis là, il a plus rien à foutre, visiblement. Les impôts ont envoyé un mail, il a dit, ouais, on peut avoir des dates là, si vous voulez, même le mardi, ce que vous voulez.
J'ai même été viré de l'association.
Ah bah voilà. Une histoire de conte fictif, moi je sais plus trop quoi, c'est rien, Vika.
Mais c'est incroyable.
On en dit tout dans cette chronique, j'ai l'impression. Voilà, mais voilà, je suis très content.
Est-ce qu'on fera mieux?
Non. Ça sert à quelque chose d'enchaîner, j'en sais un peu de promo, puis on s'en fout. Non, mais de toute façon, je suis un homme heureux. Mon club est en demi-finale de Ligue des Champions, donc hein, tu sais pas ce que c'est, ça, t'es bordelais. Bon, bah voilà, c'est pas la même dimension. Toi, tu te demandes si voilà, la saison prochaine tu pourras aller au Stade Bauer voir ton club. Bon, bah voilà, et encore ça, c'est même pas sûr, mon con, tu vois, comme
c'est
quoi.
Mon con.
Alors que là.
Ouais, bon, bah, belle dernière, O'Donnell.
Là, on leur a mis bien, ces rats de Barcelonais, là, quand même.
Non.
Ouais,
non.
Bon,
bah, on peut pas dire ça.
Bah, désolé pour ceux qui aiment les rats, voilà.
Non, tu peux pas dire
on
ça.
On vous souhaite d'avoir votre bac littéraire. Non. Je suis enroulé comme Ludo Bragnac, un peu sur Twitter, un peu, hein. Ludo Bragnac, il était chaud. Et il a été supprimé ce tweet, hein, c'est dommage.
Ah bon?
Ouais, il l'a supprimé, je crois. C'est quand il disait mange tes morts, Martinez et tout ça. Bon, voilà. Ouais. Je sais pas si tout le monde a vu ce tweet, mais. Ouais, bah, il a été supprimé. J'ai vérifié. Ah ouais, oui, je m'étais dit, bon, je vais le balancer. Alors j'ai une photo, mais je me suis dit, s'il l'a supprimé. Mais bon, j'en parle quand même finalement. C'est dommage qu'il soit pas là, mon lieu de. Je sais pas, il a dû paniquer. Il a peut-être reçu un texto de la direction. Tu sais, le texto que je vais recevoir après pour mes propos, bah, il l'a reçu avant moi. Bon, voilà.
En tout cas, c'est une belle dernière.
Non, mais je les aime pas trop. Et c'est vrai que cet enchaînement, défaite en Ligue des Champions, défaite dans le Classico, bon, bah, moi, ça me fait du bien. Voilà. J'imagine la Porta, là, dans sa douche, accroupie, en train de pleurer, voilà, en train de penser au mercato qu'il pourra pas faire parce qu'il a pas d'oseille. Bah, voilà, ça me fait du bien. Hein, comme quand moi, je vais sur les sites de vacances et que je mets le filtre 5 étoiles. On sait pas pourquoi je le fais, mais voilà, je le fais parce que j'aime bien les vacances. Donc, voilà. Et je suis content parce que je n'y croyais pas. Voilà. Je croyais pas qu'à Barcelone, on pouvait avoir deux défenseurs aussi neuneux que Araujo et Cancelo. Voilà, quand même. Ah, ils ont des têtes à connaître le goût des feutres, hein, les mecs. Hein, franchement, si tu fais des fautes comme ça alors que ton gardien c'est Ter Stegen, franchement, ils ont paniqué. Ils ont paniqué face aux trois fusées et puis Dembélé, eh ben, double confrontation quand même assez costaud. Voilà, un but dans chaque match. Alors maintenant on le sait, voilà, Dembélé, tu veux marquer, bon, bah, tu fermes les yeux, tu frappes fort et ça met un but. Voilà. Si Dembélé veut cadrer, non, c'est pas la peine, ça va passer à côté, on le sait très bien. Donc voilà, moi je suis très content pour ça. Après j'en étais au tac, voilà ça et tout. Ok, ah oui, voilà. Je voulais dire, non, parce que je vais un peu vite de temps en temps, Vikash, et après je me perds. Et parce que je parlais des boulets Barcelone, mais on a nos boulets aussi. Voilà. Ah, bah, on a Donnarumma, je suis désolé. Ah si, bah, il est bien sur sa ligne, mais il a peur de la quitter. Il joue à chat perché sur la ligne. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est pas normal. Et on pourra pas toujours compter sur des passes décisives de Koundé. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Parce que ça, non, mais il y a une entraide quand même entre joueurs de l'équipe de France. Petite passe décisive. Moi, je pense que Julot, il s'est dit, bon, si je fais une passe d'Mbappé, peut-être qu'à l'Euro, je suis titulaire. Dans l'idée, c'est bien, mais le contexte est pas ouf. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, il faudra réfléchir la prochaine fois, mon petit Jules Koundé. Mais il n'y a pas que le PSG. Parce qu'évidemment, je fais une petite fixette, c'est mon club.
Oui,
L'OM en demi-finale de Ligue Europa qui affrontera Atalanta, hein, grâce à Dieu, hein, parce que ciao Liverpool, ça fait plaisir. Je leur souhaite d'aller au bout parce que c'est vrai que sur le championnat, c'est un petit peu en marche arrière, quoi. C'est un petit peu compliqué pendant que les autres avancent. Là, j'ai vu alors Lille, Nice, Lens, Rennes, tous ils avancent. Alors, je dis pas qu'il faut se réveiller l'OM, mais il faut lâcher le bouton snooze et il faut aller au charbon. Voilà. C'est une très belle métaphore que je vais recommander à Pino pour son replay. Je trouve que c'est très, très mal de faire ça. Pas mal, qui d'autre, bah, pour la course à l'Europe, ça c'est bon. Pour le ventre mou, bon, bah, ça joue bien. Voilà, Reims est là, ça enchaîne les défaites, les matchs nuls, une victoire de temps en temps pour garder sa petite place là comme ça, bien nulos. Et puis, bah, désolé, Reims, c'est pas fifou en ce moment. Et puis bon, vers le fond. Bon, clairement, ça joue pour du beurre. Voilà, ça joue pour du beurre, clairement, maintenant, ça c'est bon.
Il a même pas mis dans le baron.
Ouais, voilà. Il reste. Ouais, j'ai vu, vous avez dit, oh, clairement, on les épargne et tout ça. Donc, je me suis dit qu'il fallait dire un petit mot quand même pour leur taper dessus un petit peu quand même. Donc, ça va jouer quoi? Le Havre, Lorient, Metz et un petit peu Nantes, éventuellement. Ça, chiale pas, Vika. C'est bon, j'ai dit le Havre, c'est pas parce que je dis le Havre que tout de suite il faut verser sa larmichette. Et un petit mot pour le roi Georges quand même, Mikotadze, qui à lui seul va peut-être faire l'exploit de sauver le SMS et me faire devenir champion MPG. C'est hyper important, voilà, de le notifier. On peut passer au top tweet si vous voulez, les amis. Jingle. Évidemment, dans ce top tweet, on va parler beaucoup de mon sujet préféré, les joueurs barcelonais. Voilà, on va commencer avec un tweet sur cette arrivée très confiante des joueurs barcelonais. Ouais. Jules Koundé, Rafinha, tout ça. Et puis après, il y a quelqu'un qui est venu remettre l'église au milieu du village. Mettez-vous sur le côté, les fashion, on va en demi, nous. Bah, ouais. Il faut avoir la référence, évidemment, mais c'est très drôle. Ensuite, un mot sur le carton rouge de Araujo. Voilà, Araujo qui va louper le prochain match de Ligue des Champions, comme le reste de l'équipe. Voilà, finalement. C'est une très belle. Je parle bien anglais, vous avez vu, j'ai fait l'anglais. Et le dernier, bah, c'est mon préféré. Alors, c'était avant le match. C'est Road to London, évidemment, du compte FC Barcelona. Et puis après, bon, bah, forcément, la sentence est irrévocable. Retoucher ta grand-mère à la limite. C'est toujours très efficace. Malheureusement, les grand-mères, j'y peux rien, c'est comme ça.
Et hein, ne va pas à Barcelone ce week-end. Voilà, merci, Jonathan Donnel, pour ce marquage à la culotte. Il est temps de passer au foutoir de Rafou. Et on commence avec l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Gasset qui a évoqué la bonne forme de Faris Moumbagna.
Avant d'affronter Nice demain, Moumbagna, buteur face à Benfica et contre Toulouse dimanche, d'un retourné acrobatique dans les derniers instants de la rencontre, Jean-Louis Gasset semble conquis par son attaquant. Écoutez-le au micro de Nicolas Chébrian.
Quand je l'ai vu la première fois, de suite j'ai pensé à Brandao. De suite. J'ai dit à Ghislain qui avait entraîné Brandao, j'ai dit ça c'est Brandao. Même gabarit gaucher. Maintenant c'est un jeune joueur, il faut le faire travailler techniquement, il faut le faire travailler dans les déplacements parce que c'est un garçon qui va vite. Et je trouve que pour l'avoir fait démarrer un certain nombre de fois. Je ne sais pas s'il y a des statistiques là-dessus, mais il est souvent efficace en rentrant.
Ça vous plaît la comparaison avec Brandao, Karine, pour Mbaya? Mais elle n'a pas l'air enchantée.
Bah, Brandao avait marqué du dos en Ligue des Champions contre l'Inter. Ouais. On n'en est pas encore là.
Mais là, il a mis à retourner au stadium.
Oui.
Et il a mis un but contre Benfica au Vélodrome.
Oui.
Bah, c'est beau quand même. Ah franchement. Bah, oui, oui, ouais, et là, c'est un peu le facteur X de la fin de saison.
Je ne sais pas cette comparaison. On verra. Au final, Brandao a été beaucoup décrié, mais il a quand même marqué quelques buts avec Marseille. Bon, il était sous le Marseille de Deschamps, donc c'était déjà un Marseille qui était beaucoup plus fort, bien évidemment. Mais s'il marque autant de buts que Brandao, finalement, c'est quand même pas mal.
C'est pertinent comme comparaison. Je trouve que c'est deux joueurs qui sont clairement pas hyper copains avec le ballon. Enfin, techniquement, c'est pas le très haut niveau.
Ça fait faire des compliments, vous.
Ils arrivent. Non, mais ils arrivent à marquer des buts régulièrement et ils peuvent aussi être des chouchous des tribunes, en fait. C'est pas forcément les meilleurs joueurs du monde, mais il y a un engagement.
On va peut-être pas s'emballer, là, c'est deux buts. Hein,
Oui, non, ça fait 4 buts et une passe décisive depuis qu'il est là. Il joue peu au niveau du ratio, c'est loin d'être ridicule. Mais c'est sûr et certain que quand on le voit contrôler le ballon ou combiner ou même parfois tenter d'amener le ballon, c'est très compliqué. Bon. Mais c'est aussi une belle histoire parce que voir un joueur comme ça avec ses limites-là, qui arrive à marquer deux buts aussi importants que ceux qu'il a marqués sur les deux derniers matchs.
Souhaitons-lui poursuivre pour le bien de l'Olympique de Marseille, bien sûr. Incroyable, le PSG, peut-être vernis, mais nous on est un peu malheureux pour Allaire, qui devrait être absent pour la double confrontation face au PSG.
Ouais, il est touché à une cheville depuis le 13 avril, il ne devrait donc pas être remis pour les demi-finales, qui ont lieu le 1er et le 7 mai, si vous n'avez pas noté les dates. D'abord, il avait été freiné par une première blessure à la cheville au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations, dont il avait été le héros avec la Côte d'Ivoire. Il a de nouveau été touché dans cette zone contre Mönchengladbach. Donc, durée d'indisponibilité estimée à 3 semaines. C'est double confrontation manquée pour lui.
Alors on va voir l'oracle du Paris Saint-Germain. Vous le savez, cette année, notre oracle pour le PSG, c'est Benoît Tribounas, qui ne s'est pas trompé une fois sur les résultats du PSG cette année. Bonsoir Benoît. Évidemment, nous, on est très malheureux pour Sébastien Allaire, parce que c'est un joueur qu'on aime, un humain qu'on aime, évidemment, et on souhaite de mal à aucun club et à aucun joueur, bien sûr. Mais là, pour le PSG, il faut aussi encore y voir... Je ne sais pas si on peut parler de clin d'œil du destin, mais encore en tout cas une nouvelle favorable sportivement. Quoi.
Il y a beaucoup de signes hein, quand même. Beaucoup de signes positifs pour le Paris Saint-Germain, même si on ne veut pas de blessures pour les joueurs. Parce que Sébastien Allaire, c'est un joueur important du Dortmund. C'est un joueur qui pèse énormément offensivement. Et c'est toujours compliqué lorsque vous êtes défenseur de marquer ce genre de joueur. Et on sait très bien que
titulaire ou remplaçant, il fait
mal. Des joueurs comme Marquinhos n'aiment pas ce genre de joueur où il faut aller au duel à la tête. Donc c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain. On en avait parlé hein, à Noël, Greg. Hein, y a des années comme ça où on les attend pas et c'est peut-être l'année où ils gagneront la Champions League parce qu'on les attend pas, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de carnaval ou il n'y a pas de d'histoire. Léo Messi qui part dans le golf. Enfin voilà. Donc il y a Lucien Riquet qui tient son équipe, qui est plutôt agressif en conférence de presse et qui monopolise un petit peu l'attention. Donc le Paris Saint-Germain forcément a ses chances.
Alors Benoît, ce soir, Bordeaux-Dunkerque, c'est juste après l'équipe de Greg.
Et en direct sur la chaîne L'Équipe, coup d'envoi 20h45, c'est pour le compte de la 34e journée de Ligue 2. Les Girondins qui doivent absolument battre Dunkerque au Matmut Atlantique pour s'éviter une fin de saison angoissante après la défaite, on vous le rappelle, dans le temps additionnel face à Saint-Etienne.
Et on va retrouver Jérémy Jeanlingros qui est au Matmut Atlantique. Il était il y a quelques instants avec l'entraîneur si décrié en ce moment des Girondins de Bordeaux, Albert Hiera. Bonsoir Jérémy.
Oui Greg, on est des privilégiés d'être dans ce vestiaire des Girondins de Bordeaux à quelques minutes, quelques heures du coup d'envoi face à Dunkerque. Regardez, on va vous montrer tout ce qu'on peut voir dans ce vestiaire, à commencer par le capitaine Johan Barbet. Voilà ses équipements, son brassard, sa serviette, ses claquettes. La disposition est la même pour tous les joueurs, ça a été soigneusement préparé. On voit les équipements de tous ses coéquipiers. Et puis regardez, on va aller sur la table, voir la façon dont on a disposé les bouteilles d'eau en V comme un scapulaire des Girondins de Bordeaux avec la bouteille d'eau minérale de la marque marques locales, les fruits secs également ici, les brassières GPS, les fruits, encore des bouteilles d'eau en scapulaire. Et puis regardez, ça c'est l'équipement le plus fourni, c'est celui du gardien. Johnson, le gardien des Girondins de Bordeaux, c'est lui qui a le plus besoin d'équipement, l'équipement le plus fourni par rapport aux autres, des serviettes, des shorts, beaucoup de rechange. Et puis on va terminer avec le chouchou des Girondins de Bordeaux, il est arrivé cet été, l'Espagnol Pedro Diaz, il a marqué la semaine dernière et lui il est très apprécié du public et notamment des jeunes Girondins. Voilà, coup d'envoi à 20h45, soyez là à 20h40 pour l'avant-match dans ce match de la peur pour le maintien face à Dunkerque.
Merci Jérémy, je me suis emballé, Riera, on l'aura tout à l'heure, il était dans les vestiaires, voilà, des moments assez exceptionnels. Je râle suffisamment qu'on n'ait pas cette chance-là d'être dans les coursives, dans les vestiaires, que quand on a comme ça des clubs pro qui nous ouvrent leurs portes, c'est vraiment chouette. En revanche, Jérémy, dites-leur de faire gaffe avec les cacahuètes, apparemment, il n'y a plus personne pour faire le ménage du côté de Bordeaux, j'ai vu ça tout à l'heure. Hein, la société est partie avec les tondeuses et avec les aspirateurs, donc faites gaffe dans le vestiaire les gars, sinon il faudra ramasser vous-même. François Le Texier et Clément Turpin, sélectionnés pour l'Euro 2024.
Le premier qui avait été élu meilleur arbitre de Ligue 1 la saison dernière va découvrir cette compétition à 34 ans. Turpin avait déjà lui participé aux éditions 2016 et 2021. Benoît Bastien et Stéphanie Frappard, envisagées pour l'Euro, n'ont donc pas été retenues. Pour Frappard, c'était la seule femme arbitre principale en 2021. Elle semblait pourtant avoir toutes ses chances d'être appelée puisque l'UEFA avait notamment formulé son intention de sélectionner deux femmes pour l'Euro organisé en Allemagne, mais donc ce n'est pas le cas.
Et puis Bologne qui conforte sa quatrième place face à Rome.
Oui, l'AS Rome a peut-être dit définitivement adieu à la quatrième place du championnat lors de la 33e journée de Serie A. La défaite 3 à domicile. El Azouni, ouverture du score à la 14e minute de jeu. Les hommes joueurs de Thiago Motta ont fait le break ensuite grâce à Zirkzee à la 45e minute de jeu. Le ballon est bien entré. 56e minute de jeu. Azmoun pense avoir redonné espoir aux Romains qui reviennent dans la partie à la 56e minute de jeu. Mais Salmakers va marquer un petit piqué. Vous allez le voir. Regardez. Et grâce à ce succès, Bologne prend 7 points d'avance sur la Roma, dont la 5e place qualificative pour la Ligue des Champions et donc menacée par l'Atalanta Bergame.
Et dont on disait d'ailleurs que la Rome a été dans une dynamique exceptionnelle et Thiago Motta.
Et on n'oublie pas le football italien sur la chaîne L'Équipe.
Bien sûr.
Demi-finale, retour de Coupe d'Italie. Ce soir, juste après la Ligue 2, Lazio-Juve et demain, Atalanta, adversaire de l'Olympique de Marseille en Ligue Europa. Ce sera face à la Fiorentina.
C'est génial. Bordeaux-Dunkerque et Lazio de Rome, Juventus Turin. Voilà votre soirée foot sur la chaîne L'Équipe. Dans un instant, on aura Gonçalo Ramos. A-t-il les épaules pour être le 9 du PSG l'an prochain, la place de Mbappé? On aura également un survivant, le replay d'Antoine Pinot, puis on filera à Bordeaux pour Bordeaux-Dunkerque. A tout de suite. La suite et la fin de DG, on rend plus tôt ce soir à 20h33 puisque derrière on part à Bordeaux du foot en clair, la Ligue 2 Bordeaux-Dunkerque, match très important pour les deux équipes et puis derrière il y aura Lazio-Juve, soirée football sur la chaîne L'Équipe. Et avant de voir ce match-là, avant d'accueillir Antoine Pinot pour le replay, avant de jouer aux survivants, on va s'intéresser à l'attaquant du Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos, qui est en feu en ce moment, Raphaël.
Il a marqué un doublé ce week-end face à Lyon, on va revoir ses deux buts justement en image à la 33e minute de jeu, le but du 3-0 sur ce beau mouvement initié par Barcola. Derrière, il y a le centre d'Hakimi. Il est à l'affût, l'international portugais, de la tête pour aller marquer ce but. Et puis à la 42e minute de jeu, également présent. Regardez, tel un renard des surfaces, ce doublé donc pour le Paris Saint-Germain. On va écouter son entraîneur, Luis Enrique, qui s'est exprimé à son sujet aujourd'hui en conférence de presse. Il est heureux de l'avoir dans son groupe. Écoutez-le.
Sur Gonçalo Ramos, je suis très content d'avoir un joueur aussi jeune. Il a de l'expérience, des prédispositions, beaucoup de qualité footballistique. Il a été très important cette saison, même s'il a plus ou moins joué, en se donnant toujours pour l'équipe. Il a eu des performances toujours justes par rapport aux besoins de l'équipe. Il a des statistiques qui sont là. En tant qu'entraîneur, je suis très content de l'avoir lui et Colomouani comme spécialistes de ce poste de numéro 9.
Alors, est-ce que sur le terrain, il a prouvé qu'il pouvait être le successeur de Mbappé en tant que numéro 9 du Paris Saint-Germain? Je parle sur le terrain, pas dans l'extra-sportif, bien sûr. Regardons vos réponses. On sait que les supporters parisiens l'adorent. C'est oui pour Alicia, c'est non pour Anthony Clément. Le collectif est le successeur avec Ramos. Ça tend vers le oui avec Benoît. De l'autre côté, c'est Luis Enrique qui doit être convaincu, bien sûr, Karine. Non, il n'y a pas les épaules pour être le 9 du PSG pour Vikash. Et non pour Raphaël Sebaoun. Vikash Dhorasoo, succéder à Mbappé, c'est compliqué. On ne le remplace pas pour le succéder. Qu'est-ce qu'ils font, le PSG? Est-ce qu'ils vont recruter un grand nom? Est-ce qu'ils se contentent des deux joueurs à 90 et 80 millions d'euros qu'ils ont dans l'effectif?
Moi, je ne sais pas ce qu'il vaut dans les gros, gros matchs de Ligue des Champions, déjà. Il a été bon en championnat dernièrement. Il faut un nom au Paris Saint-Germain. Un nom
même dans ce nouveau PSG?
Oui. Je veux dire, il est trop loin de tous les attaquants qu'il y a en Europe. Osimhen, Léao, là, qui a joué dans l'axe avec le Milan hier, Harry Kane, Lewandowski, Haaland. Il est loin derrière ces gars-là. Et pour gagner la Ligue des Champions, pour aller plus loin, il faut un joueur de ce niveau. Après, est-ce qu'il peut progresser avec Lucien Riquet et rentrer dans un collectif? C'est pas impossible. Hein. Il a des qualités. Moi, je vois qu'il progresse beaucoup. Il est bon dans les prises de balles. Il s'est libéré aussi devant le but et puis plus haut dans les zones à forte densité quand il y a beaucoup de joueurs. Il a pas de problème à se retourner, à jouer en appui, à prendre des risques. Donc il a plein de choses qui peuvent s'améliorer, progresser. Mais pour l'instant, je pense que le PSG a besoin d'un gros d'Europe.
Et pourtant, on peut dire aujourd'hui que c'est une bonne pioche de Luis Campos. C'était pourtant pas gagné au départ parce que l'ancien attaquant de Benfica ne faisait pas l'unanimité en interne. Nasser Al-Khelaifi, par exemple, le président du Paris Saint-Germain, lui, était beaucoup plus impliqué dans les discussions avec Harry Kane. Et puis, s'est ensuite beaucoup plus concentré sur la piste Kolo Muani. Mais Luis Campos, lui, proche de Jorge Mendes, agent de Gonçalo Ramos, avait tout mis en œuvre pour faire venir le Portugais au Paris Saint-Germain. C'est aussi Luis Campos qui a pris les choses personnellement en main lorsque Ramos est tombé malade en décembre dernier. Il avait attrapé un virus assez violent qui lui avait fait perdre beaucoup de poids d'un coup, ce qui pouvait aussi expliquer ses performances sur le terrain un peu moins bonnes. Et donc, c'est le conseiller sportif du Paris Saint-Germain qui a fait en sorte qu'il soit examiné par les meilleurs gastro-entérologues.
Ludo, pour l'instant, on en...
Allez-y, on entend Giovanni à l'antenne. Allez, copains, coupez le retour de Giovanni, c'est Alicia qui parle. Ou alors vous êtes ventriloque. Jeff Panacloc.
Oui.
Jeff Panacloc.
Oui, absolument.
Attention avec Giovanni. Quand même.
J'ai des talents cachés.
Bien sûr.
Bref, donc Luis Campos qui avait tout fait pour le mettre sur de bons rails. Donc c'est le protégé, le chouchou de Luis Campos qui s'est avéré finalement être une très bonne pioche pour le Paris Saint-Germain.
Benoît, digérer un transfert comme ça, c'est jamais évident, j'imagine. En plus, passer de Benfica à Paris avec les attentes autour du PSG. Là, ce virus qui a été vraiment quelque chose qu'il a envoyé à l'hôpital. Hein. Il a été vraiment chaos. Il a dû refaire une préparation en janvier. Vous aimez le joueur au point de pouvoir le voir dans le 11 du PSG l'an prochain?
Ouais, moi, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur parce que c'est un joueur qui est très intelligent, qui se déplace très bien. Et c'est un joueur aussi qui joue pour les autres. C'est-à-dire qu'il va faire les efforts défensifs. Comme l'a dit Vikash, il a des super prises de balles. Hein, il se met facilement en position de frappe. Et ça, c'est important pour un buteur comme lui. Et puis là, je trouve qu'il a de la fraîcheur, il a un peu d'insouciance aussi devant. Et puis malgré tout, il a une grosse maladie cet hiver qui l'a énormément freiné. On n'était pas forcément au courant de suite. Et on comprend
mieux. On l'a su très tard.
Parce qu'aujourd'hui, des deux, entre Kolo Muani et Ramos, c'est peut-être lui qui digère le mieux ce transfert-là. C'est peut-être lui aussi qui montre plus de choses sur le terrain. Je trouve qu'il est beaucoup plus régulier, c'est assez cohérent. Et je trouve que pour l'année prochaine, Luis Enrique, on le connaît, il va vouloir faire un collectif. Voilà, lui, Luis Enrique, partout où il est allé, avec la sélection espagnole, c'est un collectif. Il veut créer un vrai collectif. Et avec un Ramos en numéro 9, il peut pleinement faire ce que Luis Enrique veut, notamment devant, avec des joueurs rapides sur les côtés qui s'entraînent énormément, comme Dembélé et Barcola. Avec
là, on a vu un centre d'Hakimi pour une tête. Au PSG, on n'a pas vu ça depuis très longtemps.
Hein. Exactement. Il y avait des joueurs comme Icardi qui n'ont pas non plus réussi, parce qu'Icardi, malgré tout, même s'il était très bon devant le but, il était un petit peu pâteau. Ramos, il est quand même assez complet, hein, même s'il n'a pas les jambes d'Mbappé. Il a quand même une certaine vivacité, bon déplacement, bon devant le but, rapidité d'exécution aussi. Je pense que c'est un garçon qui peut rentrer dans l'once titulaire l'année prochaine.
C'est pas le même joueur, c'est clair, hein, de celui qu'on a vu en première partie de saison, ses soucis de santé et celui qu'on voit actuellement. Alors, il a marqué 10 buts en 2024. Vous voyez que son ratio but toutes les minutes a été assez incroyable. 73 minutes, un but toutes les 73 minutes. Regardez le classement dans les 5 plus grands championnats. Si on prend l'année civile 2024, s'il vous plaît. Regardez, eh bien, il est devant tous les autres. Cole Palmer à Chelsea qui flambe, Jonathan David sur l'efficacité. Ok, il a moins marqué que Palmer et Jonathan David, mais c'est un but toutes les 73 minutes.
On l'avait découvert aussi à la Coupe du Monde, Karine. Je sais que vous n'aimez pas tous les footballeurs, mais je sais que vous aimez bien
oui.
Gonçalo Ramos.
Moi, je trouve que Vikash est quand même un peu dur. Honnêtement, moi, je trouve que ce qu'il nous propose avec la non-confiance de Luis Enrique en début de saison, parce qu'en début de saison, il était pas malade. Juste, Luis Enrique n'en voulait pas, donc il le mettait quasiment jamais. Et lorsqu'il le mettait, il n'y avait aucune continuité, alors que Kolo Muani, lui, avait eu la possibilité de s'installer et il n'a pas saisi sa chance. Moi, je trouve qu'il est un vrai neuf, mais il s'est coupé à chaque fois au premier poteau, au second poteau. Il a le sens du but. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça aujourd'hui au PSG. Il est encore très jeune. Lewandowski, à cet âge-là, c'était pas le joueur serial buteur, donc je trouve que honnêtement c'est une bonne pioche. Alors il a coûté très cher, mais on le sait, c'est portugais, c'est Jorge Mendes, voilà. Mais
il avait fait une belle Coupe du Monde aussi, donc
oui, et puis de toute
façon, Benfica, c'est mettre des clauses.
Mendes, et quand t'es portugais, tu as des clauses plus chères. Et il mérite d'avoir beaucoup plus de temps de jeu aussi. Après, Luis Enrique, vu qu'il n'était pas fan au début, je suis pas sûr qu'il ait complètement changé d'avis. Parce
il peut le faire changer d'avis, c'est ça la question ou pas? Oui ou non pour vous? En marquant des buts, est-ce qu'il peut faire changer d'avis?
Luis Enrique, je sais pas si c'est le genre de personne à changer d'avis, mais effectivement, en plus, il s'est bien combiné avec ses coéquipiers et devant le but, il est très adroit. Donc je trouve que pour une première saison d'adaptation, c'est plein de promesses et j'espère que voilà, le PSG va lui faire encore plus confiance.
Au point de ne pas recruter Anthony Clément ?
Bah non, justement.
Avec le nom de Victor Osimhen, voilà. Qui sort.
C'est pour ça que moi, j'ai répondu non à la question. Déjà, je trouve que c'est une question qui est quand même très vite posée parce qu'il sort d'une bonne période, mais elle est quand même encore assez réduite dans le temps.
On est une émission quotidienne.
Je sais, mais je le répète quand même.
Et il y a un article dans votre journal ce matin.
Oui. Non, mais l'article dans le journal, c'est pas « il va succéder à
Mbappé ». Mais nous, on va encore plus loin. Mais, on est comme Buzz l'éclair. Toujours plus haut.
Et mais oui, moi, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un très bon joueur, qu'il a des qualités de neuf qui sont finalement plutôt rares, mais... La vraie question, c'est est-ce que le PSG est prêt à laisser partir Mbappé sans rien faire d'autre, en disant bon, mais maintenant on construit. Moi, je l'imagine pas en fait.
Ils vont donc vous voyez une grosse star
marquer
arriver.
Le coup et bah, pas une grosse star, mais en tout cas une recrue d'importance. Alors le problème, c'est qu'il y a déjà deux neufs qui ont été achetés pas pour rien,
170
et,
millions à
qui
deux.
Sont pas très bien utilisés cette année. Donc il va falloir faire quelque chose et je pense que ça veut. J'imagine pas le PSG partir avec Gonçalo Ramos numéro 1 l'année prochaine, sachant que comme l'a dit Karine, c'était pas non plus le coup de foudre avec Luis Enrique. Donc l'appui pourrait venir de Luis Enrique, mais je sais pas si l'entraîneur est prêt à se battre pour absolument repartir avec lui. Si on lui propose un attaquant de standing, et,
ça pourrait l'arranger, pas dire hein, peut-être.
Comment ?
Ça pourrait l'arranger aussi, de garder Gonçalo Ramos, il a pas
des coups à gérer. A priori, il partira pas. Hein.
Et puis c'est lui qui révèle Ramos au très très haut niveau, c'est lui qui le construit.
Mais il y a aussi Kolo Muani, moi j'enterre pas Kolo Muani.
Bon, en tout cas, on suivra ça, hein. Ce sera un des feuilletons, parce qu'on sait toujours pas si Mbappé part officiellement. Qui sera son successeur, son remplaçant. Les supporters parisiens ont adopté Ramos, ça c'est une certitude. On va voir si vous, vous allez être brillant, comme lui il l'a été lors du dernier match. Voici le survivant. Question de rapidité, combien de buts a marqué Ramos lors de son dernier match?
Deux.
Raphaël Seba, vous êtes le plus rapide.
Désolé, Karine.
Les 16 joueurs qui ont marqué au moins 10 buts sur une saison de Ligue 1 avec le PSG depuis 2000-2001, hors Mbappé. Les 16 joueurs qui ont marqué au moins 10 buts sur une saison de Ligue 1 avec le PSG depuis 2000-2001. Raphaël.
Cavani.
Edinson Cavani, bien sûr, 18 buts, 2018-2019, par exemple. Vicage Dorasso.
Neymar,
13 buts, c'est bon.
Ibra,
Karine, c'est bon. 38 buts dans sa saison record. Benoît.
Messi,
il a marqué 16 buts. Anthony.
Guillaume Moirot.
Oui, 17 buts, 2008-2009.
C'est aussi compliqué.
Alicia.
Icardi,
12 buts, 2019-2020. Raphaël.
Paoletta,
15 buts, 2006-2007.
Di Maria,
c'est bon, 12 buts, 2018-2019. Karine.
Il fallait 10 en Ligue 1.
Il faut 10 buts en Ligue 1 depuis 2000-2001.
Icardi.
Ça a été dit, vous ne serez pas la survivante. Benoît.
Je tendais un Gamero,
11 buts, 2011-2012. Bien joué. Anthony.
Continue sur la même veine.
Mevlut Erding, 15 buts, 2009-2010.
Bien joué.
Combien Alicia.
Moi, je bloque, là. Anelka.
C'est ancien. C'est non, Alicia. Rafou.
Bah, Messi.
Ça a été dit, Raphaël. C'est en haut, regardez. Il est là, mon petit Lionel Messi.
Combien?
C'est 10 buts depuis 2000-2001. La cage d'Orasso. Lavezzi, c'est pas bon, il les a pas mis les 10 buts.
C'est un duel Benoît Tremolinas, Anthony Clément avant le replay d'Antoine Pinault et on partira à Bordeaux dans la foulée. Benoît.
Néné.
Néné, c'est bon. 21 buts 2011-2012. Anthony, il faut répondre sinon c'est une victoire de Benoît Tremolinas. Cinq. 4. 3.
Ronaldinho.
Ronaldinho. C'est non. C'est une victoire de Benoît Tremolinas qui remporte ce jeu. Bien sûr. Vous en avez d'autres ou pas?
Il y avait Pastore.
Mais oui, Ravier Pastore.
Je vais vous le dire.
Lucas.
13 buts 2011-2012. Lucas. 12 buts 2016-2017.
Notre petit Blaisou, Matuidi.
Non, il n'y a pas Matuidi.
Moïse Kean ?
Oui, Moïse Kean. 13 buts 2020-2021. Alors après, il y en a un, il a sauvé le PSG.
Ah, Amara Diané, j'ai voulu le dire.
Oui, il fallait rester dans la même veine. Amara Diané, 11 buts 2007-2008. Donc, il est à Sochaux. Non, Louboya, il les a. Alors, Louboya, il les a, mais en mixant avec Strasbourg. Donc, c'est pas que au PSG. Non, un Réunionnais.
Ah,
Laurent Robert.
Laurent Robert.
Ah ouais.
2000-2001. Et on les a tous là où. Oui, oui, c'était Pastore. Voilà, qui n'avait pas été retourné. Bravo Benoît pour cette belle victoire. Anthony, vous me dites Erding, vous me dites Oaro, il fallait enchaîner avec Diané.
Je suis particulièrement débile au jeu aujourd'hui.
Benoît qui est à Bordelais qui gagne déjà. On verra s'ils le font contre Dunkerque. Voici Antoine Pinault, c'est le replay.
J'en suis pas sûr.
Ah, c'est pas eu.
Oh, Benoît.
Ah, vous êtes faillot avec tous les vainqueurs.
Greg, il a changé. Ce soir, je l'ai régalé. Oui. Je gagne. Oui. Et en plus, je lui file un maillot.
Ah, ouais, vous lui filez un maillot?
On m'a dit de mettre un pull.
On voit ton t-shirt en
par contre, on voit le t-shirt en dessous.
Il est transparent, ce pull. Hein. Ah, si j'étais un pro de la mode, ça serait, je serais.
Ah, non, mais ça sait que tu n'es pas un pro de la mode.
Oui, je pense que les gens.
C'est pour ça qu'on t'aime. Allez, on fait un petit replay.
Même les aveugles, ils savent que je suis pas un pro de la mode. Bon, eh ben, une nouvelle rubrique. Les gardes à vue, voilà, puisque les chroniqueurs parfois font preuve d'un humour un petit peu bizarre, donc on les fout en garde à vue, c'est plus simple. Et attention, jingle, maison, hein. C'est parti. Eh ouais, je te l'enverrai. Raph Sebaoun, pour intro suspect hier lorsqu'on a annoncé le film Rocky sur la chaîne.
Allez, bonsoir Rafou.
Bonsoir.
Ça va mon Rafou? Rafou
gagné.
Oui.
Non. Après, moi, j'ai dit 30 000.
Allez, moi aussi, je suis merveilleux de cette émission.
Rafi, c'est pas fou, mais pas pire que dans l'équipe du soir. La femme de Rocky, c'est Adrienne, hein, Didier Roustan.
Un casting merveilleux. Le président, et le président à vie de l'équipe du soir, c'est Didier Roustan.
Bonsoir.
Ça va, Didier?
Il y a moyen.
Vous aimez Sylvester Stallone?
Ouais, Gabriel, alors du coup, ça ouvre le champ des possibles pour ce film. Hein. Tiens, un autre boxeur, Seb Tarrago. Anthony, tu revenais de congé paternité. Ah bah, t'as été bien accueilli. Hein.
Ça fait un mois et demi qu'il a pas écrit dans le journal, personne s'en est aperçu.
Non, mais vous êtes vraiment le pire, mais c'est pas
ce matin, ça. C'est vrai, en plus, tout à l'heure, il a dit ah, c'est vrai, t'étais pas là.
Ah, vous êtes extrêmement fort. Bah, je vais revenir plus souvent, moi, les vendredis, si c'est comme ça à chaque fois.
Candice, un mot sur ce match-là.
À chier le vendredi.
Notre chef d'aide, Ben Perez. Quand on dévoile l'ancien coéquipier de Djibril Cissé, faut pas se foirer. Surtout si Djib est là.
Oui, oui, Djibril Cissé, évidemment. Mexès à Auxerre, Steven Gerrard à Liverpool, Samir Nasri à l'OM.
Quand on arrive à non. Hein.
C'est pas grave, c'est pas grave.
On pas été.
Arrête, on a mis le temps à Djib.
Arrête,
Djib.
Ah non,
il n'avait pas joué avec Cambrai.
Il avait flairé.
Vous n'avez pas joué avec lui?
Non.
Benoît Pérez, il n'a pas joué avec lui. Hein. On y va.
Ouais, on y va. Vous vouliez dire autre chose à ce moment-là, Greg, hein?
Oui, ferme ta gueule. Voilà.
Gardez aussi pour Fayotri, Emilie Ross avec Ludo Bragnac quand il va sur le banc.
Les gars, vous n'avez pas chacun faire votre émission dans votre coin, vous avez les micros ouverts. Donc le téléspectateur, il entend un bourdonnement.
C'est pas une marque de sécateur.
Bingo.
Non, Ludo, vous me ralentissez de fou, vous êtes un dodane.
Eh oui.
Non, un dodane de compète. Vous êtes dodane, rond-point chicane.
Allez, Quentin.
Enfin, double garde à vue pour Seb Tarrago pour tacle appuyé excessif.
Adrien vient de le montrer, Lyon va mieux, mais Lyon n'a joué que Reims dans la première partie du tableau.
Brest. Les audiences baissent, il faut qu'on revienne, je crois.
Ils sont odieux.
Allez, je ne sais pas ce qu'il avait vendredi dernier.
Tout le monde en a pris.
Ah ouais, là, Valentini, vous avez été choqué?
Je lui ai dit quand il m'a dit ça, parce que lui, ça faisait 10 ans qu'il était parti du journal et personne n'avait capté. Pourquoi vous avez pas coupé?
Mais si, je l'ai dit.
Vous avez fait contre moi.
On vient d'être coupé au montage. Bon, autre rubrique, nouvelle rubrique. Le tournant du match, vendredi justement, Seb Tarrago était dans l'équipe de Loïc Tanzi dans le Fight Club. Voilà, et ça s'est très mal passé.
Quelle histoire.
Ah, jingle, regarde. Et donc vendredi, Loïc était en Fight Club, son capitaine d'équipe était Sébastien Tarrago, un capitaine qui en cas de mauvais match vous remonte le moral de cette façon.
T'es mauvais.
Voilà. Seb ne l'a pas lâché avec Raymond Domenech en aide en plus.
Bernat.
Oui, Juan Bernat, bien joué Anthony. Et Benfica, contre Leipzig en 2020, il avait marqué.
Le mec, il est PSG première langue, deuxième langue, troisième langue.
Et c'est comme ça que vous encouragez votre équipe. Je tiens à dire que Sébastien Tarrago fait pareil au paddle. Vous ratez un coup, t'es nul, mais vas-y.
C'est pas vrai.
Ouais, c'est pas vrai, mais alors au Fight Club, pas de pitié, la preuve dans la deuxième manche. Alors là, Loïc a lâché.
Et il termine à Milan.
Rai, non, c'est pas
vrai. Non, Rai.
Mais quelle horreur! Ouh, non, mais t'as pas le droit, Loïc! Leonardo!
Il y en a eu pourtant des moments terribles!
Mais quelle pompe! Oh, regarde, il pleure!
Ah, mais il y a quoi?
Mais il va la fermer, sa gueule!
Loïc, bon ben voilà, après quoi.
Loïc!
T'es cuit, je perds.
Non, jouez! Loïc contre Raymond!
Ah non!
Vas-y, mon lapin!
T'es cuit, je perds.
Allez, Loïc contre Raymond!
Allez.
On y va!
Allez!
Joueur en activité!
Fou, lui!
La réalité tourne au cauchemar.
Ouais. Qui vire au drame, carrément.
Je l'ai pas.
Allez oh là
là. Tu sais quoi, il l'a pas.
C'est ça le pire.
Ouais.
C'est
il l'a pas. Il est dans un moment.
Il l'a pas. Comment?
Marquinhos.
Mais Marquinhos. 4-3. Il l'avait.
Non, il l'avait pas.
Mais non.
Balle pour l'égalisation, Sébastien. Allez, on y va.
Allez.
Sébastien.
Une de ma mère, je joue plus jamais avec lui.
Sébastien contre Anthony.
La danse, Raymond, la danse.
Joueur retraité.
Malade.
Joueur retraité.
C'est un fou.
Tu joues contre
Sébastien pour égaliser.
Je te jure, c'est un fou.
On y va.
Voilà, donc les résumés des pensées de Loïc Tanzi durant tout le match. Hein.
Pas moyen de lui faire fermer sa gueule.
Mais vous savez que moi j'ai perdu encore 10 ans de vie là avec Lordo. Voilà.
Il m'a ramené le soir même, Loïc, il m'a parlé que de ça pendant une demi-heure. Oui.
À Sébastien a cette capacité de rentrer dans la tête. Hein.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Il a ça.
Et il est très très fort. Bon allez, on termine par un petit tour des chroniqueurs. On y va, c'est parti. On débute. Ah oui, Alicia Dobby veut nous dire un truc, je crois.
J'adore les tapas.
Ben oui, ben merci Alicia, très bien. Je disais donc qu'on débute avec Émilie Ross qui taquine Ludo Obraniak.
On a toujours.
Il me raconte sa vie.
Il papote, il raconte sa vie.
Et surtout,
vie, là.
Je m'en fous ce qu'il me raconte.
C'est grave si j'ai pas le prénom, je vous donne le club.
Émilie Ross qui a ensuite lancé Karim, lui a fait la passe.
J'adore les tapas.
Non, la passe, Alicia. Karim, donc.
Des choses face au PSG, bravo.
Tu me regardes ailleurs, sur toi.
Non, pas du tout. Je zappe tout de suite quand je te vois. Et là, si je pouvais zapper là, alors que je suis dans l'émission, ça m'arrangerait. Ce que je veux dire, c'est que...
Regardez-moi, va faire...
Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai.
On zappe déjà le match.
C'est agréable. Non, mais honnêtement...
Eh oui. Ludo Obraniak nous a offert une belle métaphore avant Marseille-Atalanta.
Je pense à une situation...
Il n'y a pas marathon, quoi.
De poker, où il ne te reste pas énormément de jetons. Tu sens que pour aller... All-in, tu tentes le coup, tu tentes un coup de poker.
Mais vous y allez avec quelle carte all-in. Là Si bah, c'est 2 et 7, le all-in il pue du. Hein
il pue du cul, oui, voilà. Les chroniqueurs ont adoré cette métaphore.
C'est dégueulasse, pardon, mais si.
Voilà, vous avez
c'est dégueulasse. Benoît Tremoulinas, toi tu te vannes toi-même quand on te parle de légende de foot.
Vous êtes obligé sur ces matchs-là, et je m'appuie sur Benoît qui a joué des grands matchs quand même. D'exister.
Il n'était pas tout à fait à la même table. J'ai beau l'aimer, c'était la table.
Non, mais il était
serveur. Il a pris les maillots et après il a bougé.
Non, mais sérieusement, quand.
T'es sévère, Benoît. Dans les légendes, tu as ta place.
J'adore les tapas.
Oh, ta place. Laurie de Lestal nous a offert un moment de solitude avec sa tablette.
Et après, ouais. Ce qui s'est passé face au Real. Et le match allait là. Est-ce que, pendant que Benoît et Laurie cassent des ardoises, est-ce qu'ils jouent son avenir au PSG ce soir, Gianluigi Donnarumma?
Ah bah dis donc. Et puis, un point, on est tous au top. Bravo, les gros mots.
Merde.
Ah oui.
Non, ça c'est un gros mot.
Oui, pardon, j'ai ma main sur la bouche.
Mais... Oui, mais on l'entend parce qu'il y a un micro. Oui, bah oui, petit oublie qu'il a l'antenne. Non, mais il est foufou. Merci Antoine Pino pour ce replay.
demain, le petit filet. On prend la direction de la cabine. Nous attend Johan Riou avec Mathieu Dossivi. Ce soir, c'est soir de Ligue 2 au Matmut Atlantique Bordeaux Dunkerque. Johan, bonsoir.
Bonsoir Greg. Évidemment, un bonheur de vivre ce match avec vous. Enfin, vous serez chez vous, en tout cas, dans votre canapé. Ça sera magnifique parce que c'est un match absolument au sommet, mais en bas de tableau. Mathieu Dossivi me fait déjà rigoler. Bordeaux est 14e, 41 points. Dunkerque, pareil, 41 points. Il n'y a que 6 points d'avance sur la zone de relégation. Bordeaux est en crise absolue. Vous allez voir, le stade devrait être quasiment vide durant le premier quart d'heure. Appel à la grève. Les supporters resteront dans les coursives, arriveront à la 16e minute. Bordeaux qui reste sur deux défaites cataclysmiques. 3-2 défaite contre Bastia et la défaite dans les arrêts de jeu à 11 contre 10. 2-1. Mathieu Dossévi est chaud bouillant. Mathieu, on va se régaler.
J'espère que vous avez noté tout ce qu'il a dit. C'est assez rapide. Mais... On a dit être.
Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Et Johan qui a essayé de faire une passe, qui a essayé de partager le micro. Bah, il sait pas faire. Allez, merci à tous les six. Bonne soirée foot sur la chaîne L'Équipe avec Johan Mathieu. Bordeaux Dunkerque est derrière Lazio de Juve. Juve, à demain, 18h30.